Nous sommes le dimanche 21 avril et vous écoutez le 43e épisode face A de Proxy Jeux.
Ah pardon, Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas.
Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Comment vas-tu ?
Ça va. Un peu ballonné après un week-end un peu chargé, mais c'est bon.
D'accord.
Et toi ?
Ah, j'attendais. Eh bien moi ça va parce que j'ai réservé mon hôtel et mes billets pour Essen. Voilà, donc on est le 20 avril, c'est déjà fait.
C'est bien, il doit rester dans 6 mois.
Voilà, mais il faut... Alors vous qui vous posez encore des questions pour savoir s'il faut aller au Salon International du Jeu de Essen, la réponse est oui.
Oui.
S'il faut vous y prendre en septembre ou octobre, la réponse est très nettement non. Et donc, n'attendez pas l'été. Enfin, vous avez jusqu'à l'été pour préparer votre voyage avec...
Habituellement, on réserve en juin quand même. Olivier est un peu en avance. Et moi, par contre, je me dis que je suis en retard du coup.
Ouais, mais c'est de plus en plus hype, c'est de plus en plus couru. Donc, moi, je me suis dit, allons-y. Voilà, il faut y aller. Je vous rappelle qu'il y a un dossier sur Essen qui ne date pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Vous avez plein de petits conseils, et ça n'a pas beaucoup changé, sauf que les halls, les cartes des halls a été complètement revues. Donc, ça, on vous en a déjà parlé. Vous pourrez le trouver sur le site de l'événement. Et voilà.
On vous en reparlera en temps utile, hein, parce que le dossier ne vous dit pas où réserver là, votre avion ou votre hôtel. Hein.
Ça, c'est... Ah, bah, l'avion, ça dépend. Ça dépend d'où tu viens, en fait. Il y a le transport, tout ça. Enfin, c'est... Tout est envisagé dans le dossier. Mm. Voilà. Après, ça dépend où vous habitez. On parle un petit peu d'actu ou on a d'autres choses à dire, des remerciements, sur les commentaires, tout ça.
Je crois pas qu'on ait de commentaires sur iTunes.
Ah bon ?
Je reviens tout juste, j'enchaîne un peu ma fin de week-end avec.
Voilà.
Donc j'ai pas vérifié là à l'instant. Et il faut que je remette le Wi-Fi sur l'iPad.
Pas de commentaires.
Bordel. Mais.
Je suis.
Il y en avait pas vendredi.
Hein. Bon alors arrêtez les commentaires, parlez de nous à vos amis. Faites en sorte qu'on nous connaisse un petit peu et puis ça ira très bien.
Voilà. Faites écouter à votre chat, à votre chien, à votre belle-mère.
À votre belle-mère.
Ouais, elle mettrait un commentaire quand même.
D'accord. On y va, on passe à l'actu ?
Oui, c'est parti.
Et Jérémy, tu te souviens peut-être sur le salon du jeu de Cannes, donc là on saute d'un salon à l'autre, salon du jeu de Cannes, on avait vu des jeux qui étaient un petit peu spéciaux. C'est des jeux complètement standards, mais avec un petit peu une... comment dire ? Ils ont été transformés pour viser un public spécial, les non-voyants ou les personnes malvoyantes. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, le Quarto ?
On a juste eu le Quarto, ouais, mais je ne me rappelle pas d'autre chose.
C'est ça. Et en fait, la question s'est posée, je me suis demandé, est-ce que ça existait en fait ? Si, y avait d'autres jeux comme ça qui étaient disponibles pour les gens un peu handicapés. Et j'ai trouvé un éditeur qui s'appelle Robin Red Games, qui fait des jeux, à mon avis, plutôt basiques, qui est distribué par Paille Edition et qui met à disposition en mai prochain, qui met en vente en mai prochain, des jeux de cartes qui seront à la fois pour les voyants et à la fois en braille. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, à la fois pour Paille, qui, tu les as peut-être connus quand ils faisaient leur petit jeu Bacad et Fépalane. Ils sont devenus maintenant...
Amoureuse, tout ça.
Voilà, ils sont devenus distributeurs maintenant.
Il a toujours distribué ses jeux en fait.
Oui, il était auto entre.
Ouais, il se distribuait lui-même déjà.
Auto distributeur et puis là il distribue le jeu des autres. Donc 4 jeux à partir de 4 ans avec disponibles pour les non-voyants pardon, une version braille en version braille en français et en anglais. Voilà. Donc dans les 4 jeux, on va trouver jeu de cette famille. On va trouver mon premier jeu de cartes, enfin des jeux comme ça, tu vois, assez basiques. Mais l'intérêt, c'est que on peut y jouer avec tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas avec des jeux conventionnels. Voilà. Donc si vous aussi vous connaissez des initiatives comme ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur le site et on relayera l'initiative parce que je pense que c'est le jeu de société, le monde du jeu de société assez fermé, assez parfois, je trouve élitiste par rapport à la catégorie socio-professionnelle des gens qui la fréquentent, par rapport au niveau de vie, tout ça. Et là, c'est une ouverture sur un peu des gens qui ont des problèmes, donc c'est bien.
Très bien. Mais je suis en train de réfléchir, mais je ne me rappelle pas du nom d'une... On a déjà évoqué une fois, mais il y a une association à Lyon qui transforme les jeux de société traditionnels type le Aligali, justement, en jeux pour aveugles. C'est vers les brotos, mais il faut qu'on repioche l'info, mais je suis sûr qu'on peut aller prendre une petite mallette, n'est-ce pas, Olivier ? Comme à l'ancienne.
Oula, comme à l'ancienne.
Et aller faire une petite interview. Oui, non, mais a priori, c'était très intéressant. Hein, parce que transformer un Aligali pour que tous les aveugles puissent jouer à Aligali, c'est quand même pas mal.
Bah, oui.
Quatre aveugles autour d'une table qui jouent à Aligali, ça doit être.
Tu me rappelles, parce que Aligali, c'est la clochette, et puis après les.
Il faut avoir. Oui, c'est un jeu de rapidité, donc par exemple, à 4 joueurs, il faut chacun retourner une carte à la fois, sur une pile, et quand il y a 5, les cartes prennent des fruits, il peut y en avoir 1 à 5 sur la carte, et quand il y a 5 fruits au total entre toutes les cartes visibles, il faut les taper sur la sonnette.
Oui, donc oui, c'est un challenge.
C'est quand même un jeu de rapidité, ouais, c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'ils vont. Les cartes sont toutes en relief, donc quand un joueur retourne une carte, tous les joueurs vont d'abord toucher les cartes avant qu'il y en ait un qui aille éventuellement taper. Je sais pas comment ils font. Mais...
Ok, bah écoute, on va voir si on peut organiser ça avant l'été. On promet rien parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais effectivement, on va peut-être. Si ce n'est aller les voir, peut-être les inviter pour un prochain numéro.
On peut. Et dans l'épisode précédent. On vous a parlé, notamment sur la phase B, je crois, à propos de X-Wing, je disais qu'il n'y avait pas de plateau pour jouer, que c'était pas terrible de jouer sur notre propre table
tout à fait.
En verre, en bois, n'importe.
Tout à fait, et les tables qui crissent un peu. Bah,
non, mais
la faire crisser,
fort.
J'y arrive pas en fait.
Doucement. Fais doucement avec cette table.
Bon, voilà, c'est ma table de cuisine qui me grince, sauf quand on a envie de la faire grincer.
Comme un lit. Mais je sais pas si vous l'entendez dans le micro.
Je pense pas que vous l'entendez maintenant. Donc, moi j'ai une table en verre et c'est un petit peu la plaie pour jouer dessus.
Voilà, et donc on vous avait dit, enfin moi par exemple, j'ai imprimé mes plateaux sur des toiles, sur des toiles cirées, enfin sur des posters, en PVC. Depuis en fait, vu que le jeu marche quand même, c'est un sacré carton ce jeu, donc pas mal de monde s'y met. Donc on verra tout à l'heure, on vous en reparlera, mais chez Geek Bazar maintenant on trouve carrément pareil ce genre de type de plateau.
Oui, les deux dont tu avais parlé, non ?
C'est des playmats. Non, ceux que j'ai parlé, c'est moi qui les ai faits.
Ah, c'est marrant parce qu'il y a exactement les mêmes, il y en a, enfin...
Ouais,
il y a
même
y en a
style,
un univers et l'autre, c'est l'étoile noire.
Bah oui, voilà. Bah, de toute façon, tu vas pas faire 40 trucs d'univers. La première fois que t'en as un.
Bah, tu pouvais faire Tatooine, tu pouvais faire.
Ouais, Endor, Haute, tout ça. Tout ça ouais. Bon, bref.
Bah, quand même.
Et.
Ça sera pas les extensions.
Ah ouais, peut-être. Mais justement, et donc Fantasy Flight Games et puis Edge, ils ont un petit peu réfléchi, je pense. Puis ils se sont dit, ah ouais, on va peut-être quand même occuper le marché maintenant avant de se le faire piquer. Donc ils sont en train de préparer des plateaux. Des plateaux un petit peu différents. Ils ont, eux, ça va être du plateau en carton épais.
Oula, assez... 90 par 90 en carton épais.
Alors, ils le font en tuiles. En fait, ça va être des plateaux modulaires. Donc, en fait, c'est des tuiles de 30 par 30.
Non, mais ça veut dire que tu auras une boîte qui va peser 2 kilos.
Elle fera 30 par 30, ouais, avec du carton. Ah ouais, avec du carton épais. Pour donner l'idée, le carton, il est aussi épais que le socle en plastique.
D'accord. Mais comment tu ranges ça dans ton pack 216 ?
Ah bah, tu ranges pas. Tu achètes le pack 322. À sortir, non, tu le laisseras dans une boîte. Ce sera dans la boîte, à mon avis, une boîte 30 par 30, j'en sais rien. Ou tu sais, ils s'en fichent. Hein. Peut-être qu'ils ressortiront, ouais. Hein. Ils inventeront après un nouveau système de rangement. Bref, donc il y a 12 tuiles dedans. Alors, c'est pas encore sorti, hein, c'est en préparation. Alors, patientez. Il y a 12 tuiles en fait dedans et on peut constituer le plateau comme on veut. Alors, ils montrent des exemples. À mon avis, il n'y en a pas 50 des exemples possibles. Ils ont par exemple, c'est la lune d'Endor, donc qui tient sur 4 tuiles. Après, il y a pas mal de tuiles qui sont juste un fond étoilé. Et puis, à mon avis, il y a 4 tuiles qui font l'étoile noire. Et donc après, on peut faire, par exemple, on met...
4 tuiles, excuse-moi, ça fait que 60 par 60, ça.
Ouais, mais parce qu'en fait, tu mets 4 tuiles Ender, et puis après, tu complètes avec des tuiles étoilées. Ou alors, tu mets un quart de Ender en bas, un quart d'étoile noire en haut, tu vois. Enfin, voilà, ils ont fait...
Ce message s'adresse à Stéphane. Il faut vraiment que tu mettes une...
Faut mettre les visuels.
Visuel, parce que moi, je n'avais pas compris avant de voir l'écran de...
Bah, il y a les liens, ouais, voilà, y a les liens sur la news, sur le site de Edge, hein, ça aide. Donc voilà, voilà l'idée. Alors bien sûr, on ne sait pas le prix, on ne sait rien, mais c'est pour dire si vous réfléchissez à vous aussi à un système de plateau, peut-être que vous préférez cette solution. Parce qu'après tout, c'est vrai, si vous voulez jouer sur un plateau qui ne fait pas 90 par 90, mais je sais pas moi, 60 par 30.
Ouais, ça ne me convainc pas, hein, de base, ça ne me convainc pas.
De quoi ?
Bah, je pense que c'est super facile d'avoir ton mat en latex plié. Dans
oui,
ton,
ce sera
dans
moins cher et tout. Bah, le côté sympa, c'est le côté modulaire que tu n'as pas avec ton playmat. Mais après, tu as des plaques et cartons, le risque de bouger, etc. Effectivement.
Là, excuse-moi, c'est un petit peu. C'est gadget.
Ah bah oui, oui, bah c'est quelque chose.
C'est toujours caché. Ah, rappelle-moi, on parle d'un jeu, de figurines, et là on parle du plateau. Ouais, ok, d'accord. Non, okay.
Ouais, mais voilà.
Non, non, je disais, j'étais en train de dire, c'est gadget parce que... Toi, dans ta façon d'aborder les choses, t'as soit les étoiles, soit l'étoile noire, enfin le fond étoile noire.
Ouais, voilà.
Là, en l'occurrence, t'as le noir de l'espace, et puis après, t'as une planète, et où l'étoile noire, et où. Donc, bon, c'est pas.
Voilà, ils pourront faire des extensions, parce qu'après, ils pourront faire Tatooine, justement.
Ouais, c'est ça. Ouais,
bah, bon, non, je pense, effectivement, moi, je pense que tu mettras pas 50 fois, enfin, 50 configurations, hein, tu t'en fiches. Surtout qu'après, il faut poser les astéroïdes, etc. Donc, et là, ils les ont pas modélisés. Il n'y a pas grand chose d'autre.
Okay.
Bref, je pense que ça sortira avec la prochaine vague d'extension, avec la vague 3.
Non, 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 elle va pas, elle va jamais sortir cette vague d'extension.
Comment ça, elle va jamais sortir?
Non, non, elle, je te jure, elle ne doit jamais sortir.
Ne jure pas.
Parce que, non, parce que sinon, c'est mon banquier, il va être super malheureux.
Ah ouais, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce que j'ai vu qu'FFG, alors c'est qu'aux États-Unis, c'est pour ça que je t'aurais déjà inscrit à l'événement. Ils proposent, je sais pas comment, ils organisent un événement où certains joueurs ont la chance de découvrir en avance les prochains vaisseaux.
Ouais.
Donc malheureusement, non, il y en aura.
Mais je repose ma question, comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer tout ça dans le pack de 216?
Bah, t'achètes le pack 322.
Ok. C'est... Ok.
Toujours pareil, hein, toujours la même réponse. Hein, t'inquiète pas, mais c'est une industrie, il faut qu'ils vivent, tous ces gens. Ils ont une famille à nourrir, ils ont des jeux à acheter.
Tu me donnes la transition idéale, parce que moi, je voulais te dire, vous dire, que pour moi, et à ce que j'en lis, l'industrie du jeu de société se porte plutôt pas mal. J'ai lu que Steve Jackson Games faisait des bénéfices. Alors, tu peux répéter la réflexion que tu as eue quand je t'ai dit ça tout à l'heure?
J'ai dit c'est facile, il fasse des bénéfices, puisqu'avec Ogre, il a fait lever 1 million de dollars chez Kickstarter.
Voilà, alors, et à ton avis, combien... Enfin, t'as vu la note, alors ça a plus aucun intérêt.
Mais... Non, mais j'aurais jamais dit ce qu'il y a dedans. Enfin,
donc,
je me rends pas compte déjà combien fait un éditeur de chiffre d'affaires.
Ils ont fait 7 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2012.
Ça fait 7 000 euros, quoi.
Ça fait un peu moins. Mais 7 millions de dollars.
Et en chiffre d'affaires.
En chiffre d'affaires,
en bénéfice.
Ouais. Non, non, mais oui, après, ça volume. Voilà quoi. Mm. Grâce à Munchkin, qui représente 75% des ventes.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il a 100 Munchkin, ouais, j'imagine que ça se vend bien. Ouais.
Et à combien, tu sais combien ils en sont d'extensions de Munchkin?
J'en sais rien. Je dirais qu'ils en ont sorti avec les Cthulhu, les machins. Une dizaine, ils doivent en avoir, non?
Une dizaine, et ils en prévoient 8 pour 2013. Dragon, Easter Eggs, Mars Attack, Pathfinder, Zombie Decay.
Donc ils ont pris des licences dans les licences en fait.
Ouais. Ouais.
Mais tu vois quand on dit pour X-Wing etc, ils vendent des plateaux, des machins, bah c'est pareil. Hein. Quand t'as un filon, après il faut l'exploiter.
Bah tant qu'il y a des, bah c'est, ouais, c'est.
Je suis pas.
C'est l'offre à la demande.
Ouais, j'ai jamais joué à Munchkin. Après, je sais pas.
Tu n'as jamais joué à Munchkin?
Non, j'avoue. J'avoue, je suis puceau à Munchkin.
Je pense pas que c'est moi qui vais te dépuceler. Mais...
voilà.
Parce que
non, je crois pas que j'ai jamais eu envie en fait.
Munchkin, c'est un petit jeu de cartes quoi, où tu vas équiper tes personnages, où tu vas.
Ouais, je connais le principe. C'est pour ça que je m'intéressais en fait.
Et en fait, pour moi, c'était le public visé. Alors, vous auditeurs, détrompez-moi si je dis une connerie parce que ça m'arrive. Mais j'avais l'impression que c'était, tu sais, pour les rôlistes. Ou pour les gens qui connaissaient le jeu de rôle et qui ne connaissaient pas forcément le jeu de société, entre deux parties, en attendant quelqu'un, tu sors Munchkin et puis tu te remets dans le hobby. Quoi.
Bah avant, tu sortais Magic, quoi, je préfère sortir Magic.
Ouais, ouais. Non, mais là, attends. C'est... Bref, et tu dis.
Maintenant, tu fais Dominion, tu fais des jeux comme ça, tu vois.
Voilà, ouais.
Déjà en 15 minutes.
Tu fais Ascension. Tu dis, voilà. Ils ont enlevé 1 million de dollars pour Ogre, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait. Eh ben, alors je sais plus qui disait ça, c'est que a priori Ogre c'était un gouffre financier, que c'était à peu près 400 euros, le set était à 400 dollars et que il allait être vendu à la base 100 dollars dans le commerce, qu'il avait pris 7 mois de retard, qu'ils avaient foutu le why dans tout leur agenda et que en plus. De toute façon, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient fait autre chose. Donc, en fait, le million de dollars, eux, ils disent, on les aurait fait sur autre chose. Et ce n'était pas forcément une très bonne idée parce que, justement, on a eu des décalages de projets.
Mais ouais, il fallait pas qu'ils fassent le Kickstarter alors s'ils avaient pas en fait
ils ont la beauté du Kickstarter.
Ouais, ils ont fait un beau plan marketing et puis après ils ont oublié qu'il y avait tout un déroulé.
La réalité.
Putain, bah pourtant je pense que vu le nombre de jeux qui sortent, mais c'est sûr que c'est différent quand tu sors un Munchkin juste estampillé avec une licence, puis quand tu ressors un Ogre qu'il faut tout retravailler, forcément c'est pas le même boulot.
Puis là alors je encore peut-être une bêtise, mais c'est toujours les mêmes illustrateurs pour Munchkin. Il y a une cohérence dans l'illustration, donc il doit faire appel aux mêmes personnes. Donc en termes de projet, avec le temps de récupérer les dessins, le nombre de dessins, le nombre de cartes, c'est vachement standardisé.
Oui, après, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont rodés.
Mais après, pour les mêmes personnages, il y en a un, il a un tentacule à la main, l'autre, il a une tête d'humain à la main parce que c'est un zombie.
Ouais, ils ont peut-être des caracs, enfin les caracs doivent pas trop évoluer, mais par contre, les compétences, enfin les effets spéciaux doivent être différents.
Ouais,
mais. Ouais, en fait, pour Hogg, s'ils perdent de l'argent, c'est tant pis pour eux. Il fallait mieux. Ils avaient qu'à réfléchir avant de faire leur Kickstarter. Ils avaient mieux qu'à chiffrer les trucs. On va reparler. Enfin, vas-y, je te laisse finir là-dessus, mais ça tombe bien. On va reparler d'un autre projet Kickstarter qui s'est vautré au premier passage.
Et avant de passer. Formule E Non,
ils ont réussi, on ne sait pas comment.
Alors. On est base langue. puisqu'on est dans les news, on peut signaler que Munchkin Apocalypse arrive chez Edge. Voilà. Donc. Un nouveau Munchkin en français cette fois.
Mais c'est vrai, ça doit bien se vendre. Et le jeu zombie, c'est pas chez Steve Jackson. On l'a vu l'autre fois, c'était chez Twilight Creation.
Et voilà. Et alors, je voulais vous en parler parce qu'il y a pas que Steve Jackson pour qui ça roule. On a appris de la bouche même, enfin du stylo, enfin du clavier même de Patrice Deiello. Que aujourd'hui 21 avril, ça fait 2 ans que King of Tokyo est disponible et que il a vendu 200 000 exemplaires.
200 000 boîtes.
Ouais. 200 000 boîtes en 18 langues.
Vache.
Voilà, c'est mal, hein. Voilà. Donc Yellow, c'est une affaire qui roule et tant mieux. Tant mieux.
200 000. Ouais, ça en vend un peu partout. 18 langues, ça aide quoi.
Et alors juste avant de passer sur le Kickstarter, je voulais juste faire une remarque. C'est en fin de compte, en préparant le dossier, je me disais que tu as des très bons jeux, tu as des jeux que tu aimes beaucoup, tu vois, tu as des perles ludiques, et qu'en fait, c'est pas forcément sur ça que les éditeurs vivent, quoi.
Ça a un peu changé parce que justement, je l'ai revu avec un copain ce week-end. C'est autour d'Agricola, par exemple, où on a tous, quand on aime Agricola, on a tous craqué et on s'en fout, tant pis, ça coûte plus cher. Enfin, je veux dire, le rapport, il y a un rapport après.
Prix plaisir,
voilà. Enfin, on s'est tous fait plaisir à pimper le Agricola, à lui changer les pions, etc., à changer les plateaux, tu vois. Mais ouais, et on achète. Moi, j'achète encore les decks qui sortent, le deck belge là qui est sorti il y a pas longtemps. J'achète tous ces trucs là. Et c'est sûr que le prix est élevé par rapport au matériel qu'il y a dedans. Mais c'est pas grave. C'est un jeu. Non, en fait, pour moi, c'est pas perdu parce que c'est un jeu. Je sais qu'il sera toujours bon. Je sais que les extensions vont toujours venir l'enrichir et j'achèterai toujours.
Oui.
Donc c'est ça. Mais voilà, en fait, il faut réussir à faire un hit et après à réussir à trouver comment l'enrichir. Alors avec des goodies, avec des extensions.
Oui, mais là, on parlait de.
Mais Ascension, tu peux y aller. Ils sortent des Munchkin. Extensions. Quoi, Munchkin, justement, ils sortent.
C'est pas. Voilà.
Ils sortent des spin-offs. Des...
Ouais, mais c'est pas
des licences, des machins. Des...
C'est pas une perle ludique.
Pour les joueurs qui y aiment, je pense ceci.
Ouais, ok.
Je pense que c'est pas. Les gens qui jouent à Munchkin, c'est pas des gens qui jouent aux jeux de société traditionnels comme nous. Enfin. Ils jouent plus aux jeux de rôle, plus à des jeux un peu différents. Ou bien c'est plutôt des jeux de zombies qu'il leur faut, parce qu'ils ont posé le cerveau à l'entrée.
Ok, donc écoutez, réagissez à ce qu'on vient de se dire sur le site podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes joueur de Munchkin, si vous aimez Munchkin, n'hésitez pas. Et puis, Jérémy, après le jingle, je te laisse parler de Kickstarter et de financement participatif. Et donc, Jérémy, tu voulais nous parler de Kickstarter, d'édition participative.
Ouais, c'est pour faire plaisir au rédac chef qui aime bien qu'on parle de Kickstarter. Donc, je continue à chercher des Kickstarter.
Bah écoute.
C'est pas vrai, c'est pas pour ça, mais c'est parce qu'en fait, ça fait beaucoup partie de l'actualité.
Oui, pour répondre à l'actualité, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, voilà. Après, le réseau actualité, on n'a pas forcément parce que, en fait, les éditeurs, quand ils préparent un jeu, le temps qu'ils le signent, qu'ils le préparent, etc., il peut s'écouler 1 à 2 ans. Ça reste pas mal dans l'ombre quand même. Et quand ils vont communiquer dessus, c'est 2 à 3 mois avant sa sortie seulement. Alors que c'est vrai qu'avec les Kickstarter, ils sont obligés de se mettre bien plus tôt en visibilité. Après, ça provoque les problèmes qu'on connaît de retard, etc. Mais c'est pour ça, peut-être, ils ont besoin vraiment de cette visibilité pour sortir leur jeu. Donc c'est pour ça que ça fait plus l'actualité. Et puis peut-être effet de mode aussi.
Oui, je pense qu'il y a une vague Kickstarter et tout le monde sort dessus.
Alors justement, et on parlait juste avant des Kickstarter qui étaient des fois des trucs qui sont peut-être mal préparés, voilà. Et il y a, par exemple, Twin Teen Bots, qui était un jeu de Phil Kehrs, qui devait sortir chez Flatline. Flatline Games, c'est ceux qui font ce merveilleux jeu qui est Rumble in the House et Rumble in the Dungeon.
J'ai vendu mon... Enfin, j'ai vendu... C'était pas le mien, mais j'ai vendu Rumble in the House, j'étais très content. Je vends toujours mes jeux, mais ça va, ça va.
Ça va, bon.
Et j'ai vendu Rumble in the House, j'étais très très content.
Ouais, ouais, bah voilà. Bon, après, Twin Tin Boat, c'est plutôt un jeu de programmation de robots, un peu à la Robo Rally. Mais ils t'expliqueront qu'évidemment c'est différent. Ça a l'air assez intelligent quand même hein, comme jeu, c'est pas simple.
Et il avait. C'est quand même Kiertz.
Bah ouais, voilà,
c'est un garçon intelligent.
Ouais.
Pour petit rappel, Dominique, c'est pas Dominique.
C'est Philippe.
Philippe Kiertz, c'est l'auteur de
Small World.
Small World.
Au hasard.
Ouais, ouais.
Et un autre?
Vinci.
tu triches. Evo après.
Evo que en fait je pense que c'est un jeu qui n'est pas assez reconnu.
Ouais, mais il a été réédité, je sais pas si
ouais, mais je crois que il a pas produit. Voilà, c'est ça.
Non mais il y a Small World donc voilà. Ouais. Il en suffit d'un. Et donc alors, pour aller quand même dans le vif du sujet, Twin Tin Boat, il avait été il y avait déjà eu une campagne Kickstarter ululée. On va voir pourquoi il y avait les deux en même temps. Donc en fait, ils ont tenté une première campagne à l'automne dernier qui s'est finie en novembre 2012 et qu'ils ont raté. Ils l'ont raté, je sais pas pourquoi, sans le problème de communication. Ils n'ont pas réussi à lever les fonds. Alors, ils font à la fois un Kickstarter pour la version anglo-saxonne, donc américain, anglais, etc. Et ils l'ont aussi fait sur Ulule pour proposer aux Européens, notamment les Français.
Ouais, parce que oui. Mais oui, c'est ça. Un peu comme le Croque-Nidouille qui avait fait Massilia en France, qui avait fait Massilia chez Ulule. Et puis qui va ressortir leur premier jeu chez Kickstarter.
Voilà. Et donc, le premier appel de financement, Kickstarter, ils l'avaient raté, puis ils ont levé que 16 000 dollars, ils en voulaient 40 000. 40 000, c'est pas mal hein, pour
c'est
un projet.
C'est beaucoup.
Rappelons-nous, par exemple, le fameux, tu me disais tout à l'heure, là, l'éléphant...
C'était 25 000.
Formule AE, là,
formule
le truc d'éléphant. Ouais, ils cherchaient 25 000 et ils les ont eu tout juste. D'accord. Oui. Donc là, le dossier... Donc là, ils avaient raté à l'automne dernier... Donc, ils ont, bah, je sais pas, je pense qu'ils ont revu leur copie. En français, il est quasiment passé, hein. Mais de toute façon, il était conditionné à ce que l'américain passe aussi, évidemment. Le français, il était à 5454 au lieu de 5500. Je pense qu'ils l'ont clôturé en avance pour pas qu'il soit accepté alors que, je sais pas. Parce qu'il fallait d'abord que le problème, quand ils mettent le fond sur les deux, il faut que le Kickstarter marche parce que si la version Ulule marche, de toute façon, ça lève pas assez de fonds. C'est juste pour proposer aux français un truc, qui correspond. Bref, le principe, c'est que donc Flatline vient de sortir une nouvelle version. Ils retentent l'aventure. Donc, ça s'appelle maintenant, ils ont appelé Reboots sur les sites de crowdfunding. Et globalement, ils demandent un petit peu moins de fonds. Par exemple, pour le Kickstarter, ils ont revu leur copie et ils ne demandent plus que 15 000 dollars. Et comme il reste 18 jours et qu'ils ont déjà levé 11 295 dollars, on peut dire que cette fois-ci, ils vont réussir.
Oui, mais on n'est pas encore dans un succès incroyable comme on en a vu.
Non, ça n'avait pas été un gros succès. Ben, je pense que c'est un jeu un peu mateux quand même. Enfin, c'est pas une thématique aussi simple que des zombies. Que ça n'a pas ils n'ont pas l'image d'un Steve Jackson. Ils n'ont pas tout ça. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais c'est déjà bien s'ils réussissent à le finaliser. À pouvoir le finaliser, exactement.
Oui, alors attends, petite précision, on t'a dit que c'était pour la France, mais c'est France, Belgique et Luxembourg.
Non, j'ai dit pour l'Europe, c'est francophone, ouais, notamment pour l'Europe. Et par contre, si vous voulez en savoir.
Attends,
plus,
excuse-moi, c'est un proto, l'illustration là, qu'on voit sur.
Comment ça, un proto?
Dans Kickstarter.
Mais non, mais c'est ceux qui ont fait. Non, c'est
qu'on fait quoi ?
C'est un éditeur reconnu qui a fait des grands jeux qui sont vendus à 10 000 exemplaires comme Rumble in the House.
Oh non.
Je n'invente pas, c'est ce qu'ils disent.
Non, mais c'est peut-être ça. Après, je raconte ma vie. J'ai rencontré un gars la semaine dernière qui m'a dit je veux faire un jeu vidéo et je veux le mettre sur Kickstarter. Très bien. Mais la première chose que j'ai dit, c'est est-ce que tu as un graphiste ? Parce que ce qu'il faut quand tu es sur Kickstarter, c'est une façade de cinéma. C'est la grande rue du Far West avec tes échafaudages et puis tes façades de saloon et autres. Après, tu t'en fous ce qu'il y a derrière. Ce qu'il faut, c'est qu'on y croit et que ça rende et que ça pète, en fait.
Bah ouais, c'est comme et ça que ça marchait Zombicide, c'est que c'était très beau graphiquement.
C'est ça.
Tout était présenté, c'était déjà fini, en fait. L'éditeur avait déjà énormément investi dans les graphismes, etc. Il ne restait plus qu'à financer le...
Et là, les tuiles de programmation... Mais je dis non, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ah non, non.
Oh, je comprends pas. Pourtant, c'est que 45 euros, le jeu.
Ouais, bah voilà. Bref, est-ce que t'as autre chose? On peut passer à autre chose?
Bon, bah vite fait, non, bah bref.
Je suis très déçu par cet éditeur-là, la Flatline Games. Je suis
oh, tout de suite. Bon, si vous voulez quand même donner une petite chance à Twin Teen Boats, écoutez ce qu'en pense Flatline Games et tout, je vous renvoie vers un podcast qui date de l'année dernière, le numéro 282, où justement, il parlait un petit peu de tout ça, Twin Teen Boats, de la démarche, pourquoi ils font du Kickstarter, parce qu'ils sont petits éditeurs, donc ils peuvent pas, ils ont pas la trésorerie pour sortir une telle production.
Payer un graphiste.
Par contre, ils devraient prépayer un graphiste. Mais c'est un autre débat.
Bah non, en fait, c'est un autre débat, c'est les graphistes, il faut les payer, quoi.
Mais il est illustré par Quanchi. Attends, j'ai perdu le. Par Quanchai Moria. Je sais pas qui c'est peut-être un chinois, c'est pour ça. Ah non, c'est un talentueux artiste de Los Angeles, voilà, qui est actif sur Board Game Geek, à ce qui paraît.
Ok.
Je sais pas, il a fait des jeux pour Zombie in My Pocket.
Ok. Ok.
Il a participé pour Ogre.
Moria.
Voilà, et il a participé pour Ogre. Donc tu vois, hein, comme quoi, qu'est-ce que t'es mauvaise langue.
Ouais, il a participé, ouais. Bon, bref, on passe à autre chose.
Vas-y, on chie.
Tu veux, sur le Kickstarter, moi j'ai un. Alors, le Kickstarter, ça peut aussi. Je vais peut-être souscrire mon premier Kickstarter.
Mais le vrai, un truc américain là.
Ouais, Kickstarter, tu vois. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore en ligne et qui va.
Ouais, c'est pour ça que t'es peut-être tout
non,
ça.
Non, non, je t'explique pourquoi. Si je te dis Martin Wallace.
Ah, moi je comprends mieux que tu craques.
Liberté, Age of Steam, Brass, London, et j'en passe, et des meilleurs.
Monsieur Lacroft Snow.
Donc un excellent auteur qui fait aussi parfois de l'alimentaire. Ça, on va pas se le cacher.
Disque Monde.
C'est compliqué. Non, c'est un autre problème, le Disque Monde. C'est cette sorte de jeu, et qui est hybride.
Ouais, mais c'est du vrai alimentaire. 50 000 de bonnes vendues.
Non, mais c'est, enfin, c'est un bon jeu quand même. Mais sauf la croisée entre un jeu de déduction, un jeu de, enfin, il faut que tu connaisses. Ah, bref. Bah. J'en ai déjà parlé, reportez-vous au dossier où j'en ai parlé de Disque Monde, parce que c'est pas de ça dont je veux parler. Donc je dis, Martin Wallace, Cthulhu, Sherlock Holmes, dans la même boîte. Et ça vous donne a Study in Emerald, une étude en émeraude, qui est une nouvelle à la base et qui va être, transformée en jeu de société. Et là, si tu veux, j'ai pas beaucoup d'informations. Sauf que le cœur du jeu, c'est un deck building, qu'il va y avoir des enchères qui vont donner le droit de drafter des cartes et de prendre contrôle de quartiers de... Alors, je sais pas si c'était des quartiers de ville ou des villes en elles-mêmes. Chaque joueur a une identité secrète et il y aura deux camps qui vont s'affronter, grosso modo. Et en fin de compte, c'est un jeu où tu seras en équipe, mais solo. C'est-à-dire qu'il faut faire... gagner ton équipe.
Ouais, faire des points ou des machins.
Et après, il faut faire plus de points que les autres dans ton équipe. Et ça marche. Ça, c'est juste con à dire, mais dans Terra, c'était tous les... Ça, c'est le très vieux jeu de Bruno Fiduti ouais. Où on devait se battre pour ne pas faire exploser la Terre. En fin de compte, quand il y a un joueur qui se sentait largué, il freinait et tout le monde perdait. Là, en l'occurrence, comme c'est par équipe, t'as voilà, même quand il faut faire gagner son équipe, en plus faire gagner les autres. Et donc, t'as jamais vraiment perdu, en fait.
Moi, enfin bon, on peut rester à juste faire une équipe qui gagne sans aller jusqu'au score individuel.
Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est tous les ingrédients pour faire quelque chose qui pourrait me plaire. Et la très très bonne nouvelle, c'est que, en fin de compte, Study in Emerald est en print and play.
Ah bah ça, c'est mieux.
Donc t'as les règles, t'as tout le... Tout ce dont tu as besoin pour te faire toi-même ton jeu, pour le tester et pour voir si ça te plaît. Et je trouve ça génial.
Mais c'est une démo en fait ou c'est la totale?
Je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire.
Je vais regarder. Parce que, bah alors par contre, moi, Martin Wallace, là où je l'aime bien, c'est dans les jeux de gestion économique. Hein. Brass, Edge of Industry, voilà, ça c'est.
Bah, ouais,
Last Train to Wednesday. Voilà, là on est. Là c'est parfait. Là,
London est très bien aussi. London est très bien, ça reprend les mécanismes de... Enfin, London ou Fiacraft Snow, où t'as gestion de main, et puis acquisition de contrôle...
C'est pas mal, mais c'est pas, pour moi, c'est pas là où il excelle. Il se débrouille bien, mais il est quand même là.
Il y a une partie. Alors, on va peut-être retomber, on a bien fait d'en parler, sur un Morpok avec quelque chose un peu trop hybride et un peu trop où personne ne va retrouver son compte. Enfin, moi, je n'ai pas retrouvé mon compte.
Parce que des fois, c'est ça. Je trouve qu'il a un mélange un peu trop et du coup... Non, mais... Alors que quand il fait un jeu de gestion, un truc comme Brass, qu'il a un petit peu remanié pour Age of Industry, là, on...
Un petit peu remanié.
Ouais, il a remanié. On touche un jeu. C'est une pure beauté. C'est de la perle, ce genre de jeu. C'est des jeux comme tu n'en as jamais vu ailleurs, mais qui marchent super bien, qui collent au thème. Ils sont parfaits. Tout simplement.
Voilà.
Par contre, moi, au début, quand tu m'as parlé de Cthulhu plus Sherlock, moi, je m'attendais à un truc genre un détective conseil dans un environnement Cthulhu. Tu vois ? Et là, je me suis dit, ouh, ça, c'est carrément top.
Bon.
Comment Wallace pouvait sortir ça. Donc, avis à Istari, hein, pour le prochain. Moi, je voyerais bien un petit. Tu vois, mais un truc style investigateur qui va découvrir petit à petit.
Et qui va devenir fou.
Qui va devenir fou, pourquoi pas, hein,
modifier. C'est fou.
Ouais, bon, après, je n'ai pas les talents de rédacteur pour écrire ce type d'enquête, mais il y a matière. Hein.
Stéphane, si tu nous écoutes.
Stéphane, voilà.
Il va nous écouter, donc tout va bien. Voilà.
Tu nous dis avant le montage s'il faut qu'on coupe ce passage ou pas. Tu veux garder que pour toi pour travailler sur la suite.
Voilà, donc...
Mais du coup, ça va être en Kickstarter quand même.
Oui. Bah, comme
c'est un print and play, mais que tu... Mais que, qui va être Kickstarté.
Oui, parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui se fassent vraiment, qui se printent et qui jouent avec...
Ça dépend la quantité du matos, ouais.
Et là, il y en a quand même pas mal. Il y a des cartes, il y a des pions, il y a un plateau. Donc, Study in Emerald de Martin Wallace... illustré par Anne Strux chez Trifrog Games, qui doit paraître en 2013, et ça c'est intéressant parce qu'il le prévoit pour octobre. C'est-à-dire que là, ils doivent déjà être très 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 avancés, et comme on l'avait déjà vu avec certains éditeurs, ils doivent avoir uniquement la partie production à mettre en œuvre, et ça c'est super bien. 13 ans et plus, 90 minutes, et c'est du Martin Wallace, et c'est Print and Play. Et puis, Jérémy, puisqu'on parle de Kickstarter et puis qu'on parle surtout de Twin Teen Boats, Eric Anuiz, qui est éditeur de Flatland Game, il a écrit une série d'articles qu'on trouve sur son site pour ceux qui voudraient se lancer dans l'édition, pour connaître le milieu, pour préparer son business et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Et en fin de compte, je n'avais pas fait lien avec Twin Teen Boats et je me dis que le monsieur, il a quand même, il donne des conseils qui sont globalement assez bien.
Ça enfonce pas trop les portes ouvertes. Il y a des bons conseils ici.
C'est connaître son public, c'est la vente directe, c'est faire un business plan, c'est
ce qu'il a aidé pour le premier Twin Teen Boss, donc en fait ouais, effectivement.
Et puis après considérer les coûts de logistique. Est-ce qu'il y a une communauté de joueurs local, comment vous pouvez vous évoluer, tu vois, c'est des choses, c'est le bon sens, mais c'est le bon sens qu'il faut prendre en compte quand tu te lances dans l'édition. Donc je pense que, alors c'est a priori un, ils appellent ça un bouquin hein, qu'il est en train d'écrire et qu'il va mettre en ligne sur son site, et je trouve ça intéressant, même si après la réalisation, entre ce qu'il faut faire et ce qu'on fait, effectivement, c'est comme d'habitude.
Et c'est en anglais par contre seulement ou...
Oui,
j'ai vu en anglais. Il l'a pas,
j'ai pas
en
trouvé en français.
Ouais, c'est normal, hein, il a une plus grosse audience en le faisant en anglais. Très bien, bah, j'irai jeter un coup d'œil.
C'est moi qui continue avec du Kickstarter, juste pour vous signaler que une initiative Kickstarter. La bague D, c'est-à-dire qu'on n'a plus de D20, on a une petite bague avec des axes qui tournent, et puis on fait juste tourner sa bague sur son doigt, comme à la roue de la fortune, c'est exactement la roue de la fortune.
Mais, c'est exactement ça, quoi. T'as vu combien ils ont levé ? C'est la roue de la fortune.
Oui,
344 000 $.
Mais bon, après, si tu veux faire une production industrielle...
Ah, mais c'est un vieux truc, en fait, ça date du 23 décembre. Oh, les ringards, pour que si je veux, ils sortent des machins qui ont 3 mois.
Oui, mais je voulais en parler.
Et donc, et ça tourne. Et ça tourne.
De Kickstarter, ouais, ça tourne.
J'ai pas vu la vidéo, mais.
Vas-y.
Trop fort, le mec. C'est un peu. C'est un peu. Comment on appelle ça Le concours l'épine.
C'est ben oui. Et on en revient
sur. Bien sûr, ils ont inventé des tas après, mais.
Tu te dis un truc. C'est parfois pas le plus génial ou le plus incroyable.
Eh, hey, mais ça peut être utile comme un life count. Ils devraient les mettre aussi dans Magic.
Comme
dans Magic, ouais. Puis tu utilises que pour un compteur.
Ouais, sauf que là,
tu fais un compteur de points euros. Et puis tu vois un compteur de.
Et avec plein de bagues. Waouh, tu veux comme ça? Bah, je vais raconter pas de Magic.
Puis tu mets des bagues rouges, des bagues vertes, les bagues bleues, parce qu'il faut aller avec les manas.
Vert, noir pour le poison.
Oh, punaise. Oh là là.
Vert pour la vie. Très bien, donc voilà, si ça vous intéresse, on va mettre l'URL sur le site de ProxyJeux.
Dans la semaine, j'ai reçu un mail qui m'a fait super plaisir. Alors, le mail, c'est...
T'as eu une augmentation? Ton chef qui avait dit, vous ne serez pas augmenté cette année, mais vous pouvez jouer une demi-heure de plus à midi.
Oui.
C'est une sorte d'augmentation.
Ouais. En ce moment, on en est plutôt diminution d'effectifs. Non, c'est pas ça.
Tu veux dire que t'es obligé de choisir des jeux avec moins de joueurs, c'est ça?
Pardon, c'est-à-dire que je suis obligé de tailler dans les équipes, donc je suis obligé de faire gaffe à qui je vire, parce que y en a, j'ai besoin de le pour jouer, hein, donc je suis obligé de les garder, tu vois. On s'en fout qu'ils soient incompétents. C'est pas vrai, je plaisante, s'ils m'écoutent. Donc...
mon univers, hein, pitoyen.
J'ai reçu un mail de Cranio
Création,
les Italiens, qui vont rééditer Escape from the Alien in Outer Space.
On peut dire quand même Cranio Création, c'était... ils ont fait Escape from the Alien in Outer
Escape from
Space.
The Alien, parce qu'on va pas y arriver.
Ils ont fait aussi...
Horse Fever, qui justement va être édité en troisième édition, mais là, ils ont en français.
En troisième édition
bah, c'est déjà un troisième.
Avec
c'est un troisième
une règle française.
Oui, mais ça fait un moment que la règle est française. Gigamic l'a même distribué en France depuis. Donc, voilà.
Et puis...
Bah, ça, c'était leur premier. Après, ils avaient fait Dungeon Fighter.
Alors, ils sont incroyables, ces gens-là. Un Dungeon Crawl avec des dés. Et donc, Escape from the Alien, c'est quand même l'un de leurs meilleurs jeux.
Bah, carrément. Et qui a
leur meilleur jeu.
Et donc, mais qui commence à être franchement en rupture partout. Donc, il va y avoir un reprint. Il va être réédité encore une fois. Je pense que ça doit être pareil, un troisième tirage. Ce que j'espère, c'est qu'il arrivera en France.
Et pourquoi?
Et bah, parce que, en fait, sur leur site, j'ai vu qu'ils annonçaient, il est traduit dans plein de langues. Il y a 5 langues, je crois. Mais pas le français. Alors, le matériel est neutre. On s'en fout. Vous pouvez lire la règle en anglais, en italien, machin. Mais surtout, ça veut dire qu'en gros, ils ont pas de distributeur français pour ce jeu.
Mais comment c'est possible?
Eh bien exactement, et moi je me dis, quand je vois des perles comme ça, qui sont pas rééditées, ça me donne presque envie de monter ma maison pour faire de la coédition. Je suis sûr que ça coûte pas ma maison d'édition. Monter ma maison, pas en briques, hein. Mais de monter un petit truc, une petite structure pour pouvoir faire de la distribution de ces jeux, de ce type de jeu. C'est vraiment... Enfin, si vous cherchez, je sais pas, hein, c'est un jeu hors norme.
Non mais tu sais, je suis en train de penser à un truc, c'est le type de jeu
que ProxyJeux pourrait faire,
qui s'adapterait super bien au print and play.
Mais c'est un print and play.
Parce que t'as un minimum de matériel, les cartes, de toute façon, t'en as peu, tu peux facilement les télécharger,
ouais,
bon. Enfin, même les cartes à jouer, quoi.
Ouais, mais print and play, comment tu gagnes des ronds?
Et tu les vends en print and play.
En print à la demande, tu veux dire, hein.
En print à la demande,
hein. Ou tu vends le PDF, bah ouais.
Tu vends le PDF.
T'es trop en avance sur ton temps.
Non, je vais en parler quand je parlerai de jeux de rôle. Bon. C'est ça qui m'a donné l'idée.
Mais vous verrez, parce que dans la phase B, je vais vous parler de Manhattan Project. Manhattan Project, c'est un excellent jeu.
En print and play?
Non, mais qui n'est pas... Je pense que c'est à cause de son thème que ça dérange, mais c'est un excellent jeu de gestion. J'en ai pas vu comme ça depuis longtemps. Accrochez-vous pour le trouver en France, parce que c'est de l'import et c'est tout. Et il n'y a aucun éditeur français qui semble s'y être intéressé.
Ouais.
Tout comme d'ailleurs dans tout éditeur européen ne s'est pas intéressé à ce jeu.
Bah, rappelons-nous, Nouméa, l'Algérie, tout ça.
S'en fout.
C'est chaud.
T'es pas obligé de faire péter tes bombes dans le jeu, on verra.
Non, t'es pas obligé. Bah, c'est mieux quand même. Hein, parce que
non,
le plutonium, c'est mieux que l'uranium.
Ah, ça dépend.
Ouais. Bref.
Et donc, mais Escape from the Alien,
on me rappelle quand même le principe, vous avez des cartes qui ressemblent un petit peu à du toucher coulé. Vous avez des aliens qui avancent rapidement, des humains qui avancent lentement. Et chacun va déclarer ses...
Votre rôle,
ou pas,
ouais, mais votre rôle, humain ou alien, est déterminé aléatoirement. En début de partie.
Ça, c'est la base. Mais en fait, en fonction de si vous déclarez, des fois vous faites du bruit, des fois vous ne faites pas de bruit, si les gens vont reconnaître que vous êtes alien ou humain. Et les aliens vont essayer de vous croquer la tête. Vous, voilà. Les humains. Et les humains, il va falloir essayer de sortir.
Trouver l'ascenseur.
Mais les ascenseurs sont parfois en panne.
Ils sont souvent en panne, on va
surtout
dire.
Surtout quand on a un alien à sa trousse.
Voilà, c'est un jeu qui crée une petite tension. C'est un jeu hors norme. Ça joue juste avec un papier. Pas grand-chose, hein, quelques
papier
cartes. Papier-crayon, quelques cartes. Voilà, un plan de vaisseau, c'est tout.
Ouais, c'est pour ça, c'est compliqué.
Et en plus, ce qui est top, c'est qu'ils vendent le jeu avec, je sais pas, 4 à 6 cartes, je crois, de base. Mais ensuite, si vous avez le jeu et que vous voulez renouveler, il y en a des tas qui sont justement en PDF sur leur site et qu'on peut imprimer. C'est du print and play gratuit. Donc en plus, c'est un jeu qui a un suivi très bon de la part de l'éditeur. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, il a été nominé pour The Diana Jones Awards for Excellence in Gaming.
C'est quoi le Diana Jones?
Je ne sais pas.
D'accord, mais c'est bien, il a été...
Mais Excellence in Gaming, moi je trouve que c'est pas mal. Et l'Award Nordic LARP. Hein? Un livre de Jaco Stranros et Marcus Montalo.
D'accord, t'es sûr?
Et avant, c'était Fiasco, c'était un jeu de rôle. Et en 2010,
un Fiasco,
c'était boardgamegeek.com. Donc bon, voilà. Alors,
c'est un super prix. C'est ça.
Bref, bah, DianaJonesAward.org, si ça vous intéresse. Bon, voilà. Mais surtout, on revient à cette news. Vous ne trouverez pas Escape from the Aliens
si,
in Outer Space.
Je pense que vous trouverez de l'import, mais
c'est triste.
C'est un jeu, ça vaut 20 euros. Faut pas s'arrêter au matériel qui est dedans parce que ça paraît très pauvre en matériel par rapport au prix qu'on paye. Mais en fait, on paye pas qu'un matériel, on paye un concept, on paye
une idée.
On paye une idée, on paye un super jeu que dont on se lasse jamais et qu'on ressort régulièrement.
Et c'est pas très long, donc ça c'est un
ouais,
très bon filler.
Un quart d'heure, 20 minutes, voilà exactement.
Ouh, il va redescendre des étagères. On va le ressortir.
Ah bah du coup. Mais sort les nouvelles cartes, ça, enfin si t'es expérimenté, ça change le jeu. Hein. Et Olivier, on va voir si comment tu as évolué dans le temps, etc.
Bien. Comme le bon vin, moi.
Ouais, en général, ouais, tu te bonifies avec l'âge.
D'un coup, d'un moment, je vais être un peu madérisé.
Madérisé, ouais.
Mais c'est pas encore demain que vous m'entendrez chanter du Jean-Pierre Madère.
Autain violacé.
Vas-y.
Non, violacé, c'est plutôt jeune.
Vas-y.
Le.
Et on a peur. Ah non, je suis quand même à notre auditoire que nous n'avons pas encore attaqué la bière. C'est donc notre état normal.
Oui, bien sûr, toujours. Juste un café.
Juste un café.
Le. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, donc, voir si tu as évolué. Il y a deux ans, tu ne jurais que par un jeu coopératif.
Oui.
Parce que, pas que coopératif, mais.
Un des meilleurs jeux du monde.
Voilà, ton meilleur jeu du monde, c'était Battlestar Galactica.
Tout à fait.
Bon. En plus, t'adorais la série, etc. Donc
oui,
forcément.
Je suis en train de regarder Caprica.
Voilà,
le préquel.
Bref. Donc voilà, on est complètement sur le plan émotionnel et plus du tout rationnel. Et la question est, tu avais acheté l'extension, première Spaghetti.
Non mais je t'arrête tout de suite. Enfin, ce jeu est étroitement... il y a une implication forte entre la série et le jeu. Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment profiter du jeu, t'es obligé d'avoir vu la série, d'avoir un certain background. Et si t'aimes, ça, c'est mille fois mieux. Et je l'ai vu jouer à la triche. Je ne comprends pas comment tu peux jouer à ça dans un endroit exigu, quand tu ne vois pas les autres, quand tu ne peux pas te lever, parler avec les autres, avoir une sorte de role-playing où tu ne peux pas t'entendre. C'est ça aussi. On parle de, c'est un jeu de société, mais c'est plus... là, c'est à la limite du jeu de rôle. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque une soirée enquête.
Ouais, c'est dure 3 heures une partie. Hein, quand même.
C'est un jeu long.
3 heures. Ouais.
Mais tout le but et tout le sel de ce jeu, c'est d'arriver
c'est
à faire activer les autres.
Parce que là, encore une fois, il y a des joueurs qui vont avoir des félons et ils peuvent changer pendant la partie.
C'est ça. Et même le point fort, donc Battlestar Galactica est un jeu coopératif comme les autres, sauf qu'à la base, au départ, on sait qu'il y aura des méchants. Et au milieu de la partie, il va y avoir un certain nombre de gentils qui vont devenir méchants. Et ça, c'est très fort.
Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite, on en a parlé dans un proxy jeu qui est vieux, hein, qui doit avoir presque 2 ans. Il faudra que vous fassiez une petite.
Un petit peu de spéléo.
Un petit peu, ouais, un petit peu de farfouille sur le site pour le retrouver.
Google,
peut-être qu'on vous mettra le lien sur l'article de ce billet, mais merci Stéphane. ce que je veux dire, c'est que il y a eu 2 extensions. En oui. français, il y a eu. Donc, la première, c'était Pegasus, c'est ça?
Oui.
Elle est sortie en français, celle-là.
Oui.
Tu l'as acheté, évidemment.
Oui.
Ensuite, il y a eu Exodus, qui est sorti, mais je suis pas sûr qu'il soit sorti en France.
Non, mais attends, parce que moi, en fait, on me les a offerts dans, c'est le Père Noël de, c'est Secret Santa, Board Game Geek Secret
D'accord.
Santa. Donc, je les ai en anglais.
Tu les as en anglais.
Enfin, ça change rien, mais.
Non. Mais après, il y a eu Exodus, qui est sorti.
Oui.
Mais je suis pas sûr qu'elle soit sortie en français. Et c'est un jeu, quand même, qu'il faut le dire, à quelques années.
Bah 2008 pour Battlestar Galactica, 2009 pour Pegasus,
voilà.
Et 2010 pour Exodus.
Ouais, Exodus est sorti, voilà. Et c'était, si elle a dû sortir en français, alors, parce que si on en a parlé dans le proxy jeu, c'est qu'elle sortait en français, Exodus. Et, mais c'est étonnant parce que elle sort quand même à des dates un peu éloignées. On est plutôt habitué à ce que les extensions sortent dans les années qui suivent et pas comme ça.
Bah,
parce
2008, qu'il y a une, 2009, 2010.
Parce que si on en parle, c'est qu'il y a une troisième extension qui arrive, qui
c'est
s'appelle
qui
Daybreak. Et qui, en fait, à mon avis, va plus recoller en fait à la fin de la série, puisque quand on joue à Battlestar Galactica au jeu, on colle plus au début de la série qu'à la fin.
La fin de la série.
Là, ça colle à la fin de la série.
Ouais.
Quand on connaît les derniers silons.
C'était pas cette époque-là où il y avait les grèves des scénaristes et où ils nous ont foutu une fin à la con.
La saison 4 a été coupée en deux demi-saisons.
Bref. Et ta question alors, c'était quoi?
La question, bah déjà, c'est si tu jouais encore, c'était juste pour parler de la sortie de cette nouvelle, nouvelle extension.
Alors, c'est un concept que je vais développer tout à l'heure. Quand je parlerai d'Ascension, j'ai parfois arrêté d'acheter des extensions parce que je trouvais que le jeu de base était suffisant et qu'il se suffisait à lui-même et qu'en fin de compte, quand tu ajoutais des extensions, tu faisais que complexifier et tu perdais la pureté que tu avais dans le jeu de base. Et c'est ça que j'ai pas acheté Exodus justement parce que ça rajoute des choses un peu qui moi me paraissaient pas intéressantes. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai suffisamment à faire avec Battlestar Galactica. Le jeu de base où j'ai pas mal joué, le jeu avec l'extension donc Pegasus, j'y ai un petit peu joué. Là, je joue plus beaucoup à ce jeu. J'ai eu l'occasion, mais j'ai pas réussi à concrétiser il y a quelques semaines. Mais pour moi, ça reste un des tout meilleurs jeux du monde, quoi.
Parce que moi, je me demandais justement. Ok pour le marché américain, mais je suis pas sûr qu'il va sortir en France parce que un jeu qui est sorti il y a 5 ans.
Oui.
Et justement, je me dis, les gens qui ont eu joué, ils ont dû jouer il y a quelques années. Alors, est-ce que ce sera l'occasion pour de ressortir ce jeu ou pas? Et justement.
Ouais, mais non.
Moi, je reste sceptique sur une troisième extension. J'étais tout étonné de voir qu'il y avait une troisième extension.
Mmh. Bon. Voilà. Bon, donc, ça ne me tente pas. Et j'ai toujours une passion pour Battlestar Galactica, mais pas pour des breaks.
Et voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, il a annoncé qu'au troisième trimestre 2013, donc vous pouvez voir à mon avis septembre.
Chez FFG,
donc en France et peut-être dans un an chez Edge.
D'accord. Et j'ai été un petit peu bourré par.
Fenduel
Thomas. Oui, c'est Fenduel. Fenduel qui nous a fait sa présentation en 2 minutes de coup de Ricky Tata. La minute de Fenduel. Et on a appris il n'y a pas longtemps que deux éditeurs vont le rééditer. D'abord Indie Board Games, donc Resistance, Avalon, Flashpoint. Et puis Ferti. Ferti qui prépare une version française illustrée par Nayad. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Oh, c'était pas mal, effectivement. Donc, c'est un jeu qui était en rupture, ce qu'on a dit. C'est-à-dire que c'était sympa. Comme si vous avez eu envie en écoutant la minute. De trouver le jeu, le problème c'est qu'il était difficilement trouvable.
Et oui.
Déjà, Ison, pour le trouver, il fallait y aller, c'était dans le hall 6 perdu au milieu du jeu de rôle. Mais en plus après le salon, il est arrivé quelque peu dans les boutiques françaises, mais rapidement en rupture partout, et après, il n'y en avait plus.
Donc, une nouvelle carte par rapport à ce qu'on connaît dans le jeu de base. Et c'est une carte qui sera inclue également dans le Kickstarter, parce que c'est un Kickstarter d'Indie Board Game. Donc, pas la peine de becquer, de cuisiner pour Indie Board Game. Attendez la version Ferti.
Et d'ailleurs, la première fois qu'on avait parlé de coups, c'était un épisode de.
C'était, je me souviens, un mardi.
C'était un mardi, ouais. Non, c'était en décembre. Il y a eu Fenduel qui a fait 5 minutes, mais on en avait déjà un petit peu évoqué quand on avait reçu Thomas en décembre à Proxy Jeux. On l'avait reçu à l'époque, c'était pour me parler de Terra Mystica, qui est le jeu qui a le plus buzzé à Essen. Et Philosophia devait sortir en français très, très prochainement à l'époque. Et effectivement, on peut dire que ça a été assez rapide, puisqu'il est annoncé là. Il arrive normalement la fin de la semaine, le 26 avril. Donc quand vous écouterez, c'est sûr, il devrait être disponible dans les boutiques.
Il sera
disponible. Par contre, donc, je vous renvoie au numéro 37 face B pour toute la review très intéressante de Thomas, qui va forcément vous donner envie.
Attention, c'est un gros jeu.
Mais c'est un jeu costaud, c'est un jeu de gestion, à mon avis, qui a plein de... plein de paramètres à gérer, etc. Il y a de la progression, il faut bien gérer ses bâtiments, gérer son environnement, ses partenaires, ses adversaires plutôt à droite à gauche. La difficulté du jeu, le petit bémol quand même que je vais vous mettre, si je vous préviens à l'avance, c'est que le jeu était vendu 60€ à Essen et il sera à 60€ aussi dans vos boutiques.
Mais c'est une grosse boîte de toute façon pour des jeux comme Agricola, on pouvait mettre le prix.
Si, non mais c'est pas là le problème, c'est juste pour vous dire, prévoyez 60€ pour le jeu. Évidemment, je suis le premier qui vais l'acheter. Hein. C'est pas le prix ne va pas m'arrêter, mais simplement quand si jamais tu as plusieurs jeux en vue, il faut faire des choix des fois. Oui, Terra Mystica est forcément en tête de liste. Donc,
C'est là que quand tu es fidèle à un magasin en ligne notamment, bah, tu peux avoir 13% d'économie, de remise. Et puis pour un grand jeu comme ça, bah, tu peux en plus le renvoyer s'il ne te plaît pas. Donc moi je dis merci à ludicbazar.com.
Oui, il est en précommande à 58,30€.
C'est ça. Ce soir, on va se livrer à une expérience un petit peu particulière. J'ai proposé à Jérémy de faire une sorte de petite joute orale, de faire une passe d'armes sur un thème qui est le nom de l'auteur sur la boîte de jeux de société. Alors, c'est un sujet qui anime le monde ludique en ce moment. Il y a une association qui s'est montée en Allemagne. Il y a pas mal de voix qui sont... entendre que ce soit en France ou dans d'autres pays je voulais qu'on en discute et je préviens tout de suite, je vais me faire l'avocat du diable, d'accord.
Alors, c'est bien parce que moi j'aime pas
ça. On m'envoie pas de mails, enfin si, envoyez-moi ce que vous voulez mais pas d'œufs pourris, des mails si vous voulez. Je prends parti contre les auteurs et Jérémy, charge à lui, devra me répondre. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, rendez-vous dans 10 minutes. Je ne veux pas que ça dure plus longtemps. Alors, Jérémy, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'un auteur de jeu voudrait absolument avoir son nom sur la boîte ? Est-ce que ce n'est pas une question d'ego ? Excuse-moi, parce que tu as quand même ton nom dans les règles quand tu es auteur de jeu, peut-être derrière. Mais non, il faut que ce soit en gros devant, quoi.
Alors... Je peux parler parce que j'ai moi-même joué en route. Et s'il n'y a qu'un truc qui fait que, à la base, que j'ai proposé, enfin, je suis tout content, le jeu, je m'en fous s'il se vend, s'il se vend pas, je serais juste tout content d'avoir une boîte chez moi où il y a mon nom marqué dessus, tu vois.
C'est pour te la péter, là.
C'est pas ça, c'est une petite fierté personnelle, non, je sais pas. Non, en fait, je pense que je pense que c'est plutôt parce que, bah, comme c'est déjà beaucoup le cas, toutes les boîtes de jeux maintenant il y a quasiment les noms des auteurs sur la couverture,
sauf chez Gigamic
où c'est derrière. Bah justement tu dis c'est sur la règle du jeu, donc pourquoi le mettre ailleurs. Mais je pense que ouais, c'est une petite fierté quoi, tu dis voilà, j'ai amené ma pierre à l'édifice. C'est pas vrai, j'ai juste rajouté un truc dans le tout le bazar ambiant.
Ouais, sauf que
il y a des jeux qui sortent.
Ma voisine elle connaît pas Rainer Knizia. Tu demandes qui c'est Rainer Knizia, elle va te demander si dans quel film elle a joué, quoi.
Ouais, mais elle est pas joueuse.
Non, mais t'as même des gens qui sont dans le hobby. Enfin, elle, forcément. Mais t'as des gens qui sont dans le hobby qui connaissent pas Rainer Knizia. T'as des gens qui, quand tu leur dis, qui vont dire, bah, je veux Dominion, et il est de qui? Bah, je sais pas, c'est Dominion, quoi. Et ils savent pas que c'est Vaccarino. Donc, qu'est-ce que ça rajoute de plus de savoir que c'est Vaccarino?
Bah, ça rajoute pas pour ces gens-là, mais ça rajoute pas. C'est pareil, hein. Il y a plein d'acteurs dans le cinéma, tu sais pas forcément leur nom sur l'affiche, tu les connais pas au début, tu sais pas qui c'est, quoi.
J'avais un pote, son phare, c'était un chauffeur de taxi dans un film. Bref. Et,
c'est bien.
Que le problème, c'est quand même que les jeux, le jeu de société n'est pas un objet qui est développé uniquement par un auteur. Il est amené à un éditeur et l'éditeur va le transformer.
Oui, complètement. Mais
si on va plus loin, je connais même. La team Istari, je suis persuadé que il y a certains jeux, pas tous, mais il y a certains jeux qui sont fortement développés par la team Istari,
ouais.
et qui sont transformés et qui n'ont plus rien à voir, à mon avis, quand ils sortent de cette petite manipulation, cette transformation, par rapport à ce que c'était. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin, tu vas mettre le nom de l'auteur plus tous les testeurs.
Ouais. Alors, le monde du jeu, pour parler, après on reviendra sur l'histoire de la pétition et tout ça, mais en France, il est pas mal. En France, un auteur de jeu, il est pas bien reconnu au niveau, par exemple, fiscal, au niveau, etc. Il est mélangé entre à la fois.
Non, mais monsieur Elka, je vous répondais pas à la question là.
Si, tu vas voir, je vais y venir. Il est mélangé à la fois entre auteur, comme ça pourrait être un auteur de livre, et à la fois comme inventeur, comme quelqu'un qui aura inventé un gadget quelconque du concours Lépine. Et bah, t'es justement entre les deux. Moi, par exemple, mon contrat, il est calé sur le contrat que t'as avec une maison d'édition. Et bah, c'est pareil. Un auteur, il propose son texte à l'éditeur. Et à mon avis, il y a des remaniements qui se font. Il y a plusieurs allers-retours qui se font. Il y a plusieurs personnes qui travaillent. Pourtant, il y a qu'un nom qui est dessus, c'est le nom d'auteur. Ça devient une licence, en fait, un nom d'auteur comme un Knizia. c'est une marque de fin, c'est signe de vente, ouais. C'est machin. Mais ouais, bon, après, là, c'est les cas extrêmes. Maintenant, on prend un autre auteur pas connu. Bah, il y a son nom sur la boîte, de toute façon, tu sais, bon, qui c'est, tu t'en fiches, quoi. C'est pas. Mais ils vont mettre tous les noms. Après, ils sont génériques. Il y avait Gigami que, par contre, ils faisaient, c'est moins le cas maintenant avec leur boîte métal et tout, mais sur les jeux comme Corridor, etc., leur classique Quarto. Dans la règle du jeu, c'est pas marqué un jeu de machin, c'est marqué sur une idée de. Et ça sous-entend que le jeu, effectivement, a pu être remanié, etc. Mais on donne quand même à la base, s'il n'y avait pas eu l'auteur, il n'y aurait pas eu l'idée du jeu, donc il n'y aurait pas le jeu. Mais je suis d'accord pour dire que l'éditeur a une grosse, grosse part dans la réalisation.
Il se prend une grosse, grosse part des bénéfices aussi. Mais...
Bah ouais, mais il prend tout le risque. Donc,
oui.
Ça ne me choque pas. Hein. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Après, pour un autre détail important, quand même, signaler, par exemple, dans mon contrat, je n'avais pas fait gaffe à l'époque. Je suis content qu'un jeu soit, mon jeu soit édité, donc tout court, tu ne relis pas le contrat. Oui. Mais en fait, moi, je soumets la règle, les idées, etc. Par contre, je ne contrôle absolument rien. Je n'ai même pas mon mot à dire sur le design, sur tous les choix qui vont être faits par l'éditeur en matière de réalisation.
Ah, en fait, tu veux dire que si tu veux ton nom sur la boîte, c'est pour dire...
Ça se marque
au contrat. Eh les gars, c'est quand même c'est moi marqué, qui l'ai fait.
C'est un article du contrat, par contre.
Non, mais c'est ça. En fin de compte, c'est pour dire je l'ai fait aussi pour pas perdre... En fait, alors, est-ce que ça veut dire que c'est pour pas perdre la propriété de ton jeu, paternité
pas.
De ton jeu.
Ouais, quelque part. Bah, c'est mon idée quand même. Après, l'éditeur, effectivement, te fait des remarques. Tu dis, ah, il faudra peut-être changer ça, il faudra changer ça, etc. Mais par contre, sur tous les choix qui sont visuels, qui sont, etc., même tout le marketing qui va être fait derrière, t'as pas ton mot à dire. Tout simplement, t'as pas ton mot. Enfin, même si tu le donnes, ils s'en foutent, quoi.
Ouais, mais ça, enfin,
ils te vont quand même tenir pour information, hein, évidemment. Et le but, c'est d'avoir des bonnes relations. Mais c'est pas.
Je pense que quand tu t'appelles Catala ou. Tu peux arriver en disant bah, je veux que ce soit dans le Japon, je veux que ce soit ceci, que ce soit cela, mais après.
Oui, bien sûr, bah, c'est pareil quand tu t'appelles. J'imagine que tu viens, tu dis attendez, mon contrat, moi, on n'est pas le contrat habituel. Hein. J'ai mon contrat. Ouais. Vous signez en bas de la page, c'est mon contrat que vous prenez. Mais prenons le cas d'un auteur plutôt, c'est un premier jeu, etc. Je pense même, si tu prends pour Myrmest, par exemple, il faudrait voir avec Yohan, à mon avis, il dirait la même chose. Hein.
Oui, parce que t'as comme une. Enfin, le Team Istaris, il te transforme ça, il te digère ça, le jeu, quand il passe dans leurs mains, c'est plus le même jeu. Alors, je pense que ça fait
attends
pas.
Tant mieux,
pas,
mais c'est tout, important. Mais,
moi, j'avais vu pour Bago. C'est Bago, c'est ça?
C'est jamais sorti, non?
Non, c'est pas encore sorti.
Ouais, voilà.
C'était concours de créateurs de jeux de Boulogne, où en fin de compte, c'est en termes de gameplay, en termes d'équilibrage. En termes, alors t'as toujours le thème et puis les mécaniques qui restent, mais t'as un travail extraordinaire.
Mais c'est normal, c'est l'éditeur connaît le marché, connaît beaucoup plus, c'est plus capable de. Et puis c'est quand même lui qui prend le risque financier. Donc c'est normal qu'il ait, s'il estime qu'il faut changer les choses. Après, l'auteur peut toujours refuser les changements qui lui sont proposés. Hein. Tu peux très bien arriver à une non-sortie du jeu. Hein.
Oui. Et donc alors bon c'est juste pour
t'as perdu, t'es embrouillé. Oh,
non, je vais juste savoir. Alors c'est juste pour. Un peu d'ego alors.
Ouais, il y a quand même un peu d'ego, je pense quand même. Ouais. C'est quand même ta création, t'es quand même content, c'est pas rien. Et c'est une reconnaissance, en fait, tu vas dire, par rapport au nombre de jeux que j'ai bien tenté d'en inventer d'autres, des jeux, mais qui ont jamais. Il y en a que je me pourrais oser proposer, tu vois, tu t'aperçois que ça marche pas. Donc quand t'en as un où vraiment ça marche, etc., ouais, t'es content, il y a cette petite fierté là, c'est normal. Hein.
Très bien.
Mais tu fais pas ça pour l'ego, que pour l'ego, on va dire.
Très bien.
C'est
très
juste
bien.
La cerise.
Et tu trouves que toi, t'adhérerais à une association. À quoi ça sert de monter une association pour faire reconnaître ça, quoi ? Parce que,
alors, après,
a priori, je pense que ça se fait en France, ça doit se faire aussi ailleurs, et nous, dans notre pays, on n'a quand même pas de mal à faire inscrire son nom sur le devant de la boîte.
Ouais, alors, le truc, c'est que ça part d'un débat, parce que les auteurs allemands sont montés en association, etc., mais je crois qu'en fait, c'est parce que derrière, il y a une autre dimension qui est en train de changer au niveau... j'ai pas retrouvé l'article qui en parle.
La quatrième dimension.
Non, mais c'est la SAZ, la SAZ, qui commence à... ils ont des droits, ils veulent se réunir pour faire un peu plus valoir leurs droits. Je crois... Attends, j'allais vérifier qu'il y a une histoire derrière de fisc, pour changer en ces temps difficiles.
Le fisc fixe exprès les taxes et autres impôts.
Voilà, ils veulent négocier. Voilà, il y a une ouverture de négociation. ils veulent négocier des choses avec les éditeurs qui sont regroupés, des éditeurs vraiment divers et variés qui se sont réunis. Donc en fait, les éditeurs d'un côté se sont réunis pour faire pression sur les auteurs. Donc les auteurs se sont réunis dans une association pour faire pression sur les... C'est un peu la merde, toi. Ça a été un peu comme la SACEM à la fin. Ou bien comme le magnifique débat entre le MEDEF et le CGT. Oui. Qui jamais rien pour personne d'intéressant.
Oui, donc en fin de compte, c'est pas normal que ça ait vu le jour en Allemagne.
Voilà. Non, alors en fait, pourquoi effectivement ils se battent ? Effectivement, c'est parce que notamment, il y aurait des éditeurs qui veulent plus mettre les noms des auteurs sur les boîtes. Ouais, c'est le débat et tout là-dessus.
D'accord.
Moi, après, il y a quand même un truc. Le nom d'un auteur de jeu, oui, qu'il soit sur la boîte ou pas, après, c'est vrai. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'il soit quand même quelque part, parce que si t'as aimé un jeu, tu dis « Ah, qui c'est qui l'a fait ? Ah, c'est Stéphane Feld, je vais regarder ce qu'il a fait d'autre. »
Pour la continuité.
J'en connais beaucoup qui achètent des Stéphane Feld parce que c'est Stéphane Feld, point. Il y a Bora Bora qui vient de sortir, enfin, les gens achètent aveuglément parce que c'était l'auteur. Knizia, c'est un peu différent maintenant, mais Stéphane Feld a encore l'effet, le même effet qu'avec Knizia il y a quelques années. Moi, par contre, il y a un autre truc, c'est que les auteurs, c'est bien, mais on commence à en parler un petit peu en proxy jeu. Moi, j'estime maintenant que les illustrateurs ont aussi vraiment leur part du gâteau. Ils doivent méritent autant. Eux, c'est autre chose. Ils n'ont pas inventé le jeu, mais par contre, ils illustrent. Et on en parlait avec la sortie de Seasons. Qu'est-ce que ça donne envie ? Enfin, ça, c'est important. C'est l'attrait de la boîte sur l'étagère.
Et on en a parlé il y a pas plus tard, il y a 10 minutes, avec Twin Tin Boots.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est pour un Kickstarter, c'est juste ce qui va faire marcher le Kickstarter. Et c'est ce qui va faire vendre le jeu. Donc oui, alors tu peux vendre le jeu sur un nom. Et là, bah, tu vois que tu n'as peut-être pas besoin de ton nom sur la boîte. Ah.
Ça fait c'est la fin des 10 minutes.
C'est la fin des 10 minutes. Tu n'as peut-être pas à avoir ton nom sur la boîte quand tu es un illustrateur, parce que justement, tu as ta patte, ta illustration qui est présente. Bref.
Non, mais même voilà. S'il n'y a plus les noms sur les boîtes, ce n'est pas non plus choquant, en fait. On parlait de Lego, je pense que Lego, c'est simplement avoir son jeu édité, c'est déjà la fierté.
Oui, et alors toi, c'est parce que tu t'es encore qu'un mono-auteur, mais je pense que pour quelqu'un qui en fait son gain-pain, comme Antoine Boza, ça doit être quand même un petit peu plus compliqué, un peu plus crucial d'avoir son nom au générique. Bon, bah très bien, l'exercice, je sais pas si elle était très intéressante, j'espère. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, on refera peut-être un petit peu des échanges comme ça, peut-être plus ou moins peut-être c'était l'actu qui nous a, enfin c'est l'actu qui m'a poussé à vous proposer ça, on peut penser à des choses un petit peu plus piquantes encore.
Si vous réagissez sur le blog et on reprendra vos commentaires
dans le prochain numéro.
Dans le prochain numéro, en introduction du prochain numéro pour faire avancer le débat.
Et puis, pour clore cette partie sur les news, tu voulais qu'on parle de la sélection du jeu de l'année 2012 par le Dice Tower.
Oui, alors Tom Vazel, donc, qui fait Dice Tower, qui est un gros podcast anglophone.
Ouais, ils ont passé les 300 numéros.
Voilà, ils ont un nombre de numéros au compteur incroyable. Alors, chaque année, ils nomment le jeu de l'année, mais... Ce que j'aime bien, c'est qu'on est en avril 2013, la sélection est arrivée. C'est pas le jeu de l'année 2013 qu'ils vont nommer, mais le jeu de l'année 2012. Ils font justement ce que... C'est moi, à chaque fois, quand on doit faire le bilan de l'année 2012, moi, je trouve toujours difficile, puisque, on va dire, la moitié de la production de l'année est sortie dans les trois derniers mois de l'année. Donc, c'est très dur de se poser et de dire, quel est vraiment le jeu de 2012? Alors, eux, au moins, l'avantage, c'est qu'ils prennent le temps de se poser et de sortir des nominés seulement en avril et d'élire le jeu de l'année 2012 quasiment début juillet, je crois. Ouais, quand je dis il au pluriel, c'est parce qu'ils sont plusieurs podcasteurs à avoir fait des choix.
Oui, parce que le Dice Tower, c'est un magazine en fait. C'est, alors que nous, on est deux, puis on fait l'actualité, enfin on fait une revue de l'actualité. Là, c'est quelque chose d'un peu plus. On a des intervenants qui sont plutôt apériodiques, qui nous rejoignent très irrégulièrement, alors que là, toutes les semaines, ou je ne sais plus si c'est hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuel, à chaque numéro, on a. Des chroniques wargame, des chroniques spécialisées, des sites chic, on a plein de trucs. C'est
belle industrie.
Ouais. Et non, c'est cool. C'est cool.
Non, mais c'est très bien. Ouais. J'aimerais qu'on soit pareil.
Ouais, j'aime bien ce format. Alors, on parle du Dice Tower Awards.
Ou alors, on peut peut-être pas parler de tous parce que ça va être long.
Les nominés pour les jeux de l'année sont...
Alors, Netrunner.
Android Netrunner. Mais ça, on vous l'a dit. Enfin, Jérémy vous a dit en long et en large, en travers, que c'était un excellent jeu.
De toute façon, c'est le jeu qui va gagner le prix. Donc je vais me tromper.
Descente, cette journée, un voyage dans, le, dans ouais. la pénombre.
Deuxième édition.
C'est pas dans la pénombre.
Dans la pénombre. C'est dark. Dans la sombritude. CO2
j'ai ramené des scènes parce que justement, c'est là où tu parlais de.
Bah, il fait partie de ces jeux que qui sont sur mes étagères, j'ai toujours pas pu jouer.
Tu parlais de Manhattan Project en disant que c'était quelque chose de différent. Bah, pour moi, CO2 m'a vraiment fait cet effet-là. Et puis après, alors dis-moi si tu en connais, mais on a Lords of the Waterdeep.
Non, ça je ne connais pas.
Mice and Mystics.
Qui arrive, je l'ai vu, il est signé chez Philosophia, je crois, pour la fin de l'année en français.
Mage Wars. Space Cadets.
Ah, c'est un jeu chez Strangle.
C'est un peu déjanté.
Ah, c'est un peu déjanté. Robinson Crusoe.
Oui, qui est un excellent jeu, mais que j'ai pas trouvé l'occasion de sortir parce qu'il est en anglais. Et là, je me suis fait un peu. Parce que. Je l'ai proposé, on m'a dit bah non, c'est anglais. Oh là là.
C'est pour ça que... Ah ouais, non, mais il faut changer de joueur. Je t'ai déjà dit, choisis tes joueurs.
Spartacus, A Game of Blood and Treachery et X-Wing.
Alors, Spartacus, je connais même pas. Et ouais, X-Wing, donc, on n'en parle plus.
Alors, attention, parce que c'est un prix américain. Donc, je pense pas que Robinson Crusoe puisse avoir ce genre de prix. Quoique, ouais.
C'est le best game of the year, là, oui, ça y va quand même.
Et ben, peut-être Netrunner ou X-Wing.
En sachant que la plupart de ces jeux se retrouvent après dans d'autres sélections, parce qu'il y a le jeu.
Je comprends pas.
Meilleur jeu familial, il y a le meilleur jeu.
Et meilleur jeu familial, je ne comprends pas. Il y a Love Letter, qui est un très bon jeu, mais je ne serais absolument pas dans le. Dans
mais le familial américain, peut-être pas le familial européen.
Legendary de Marvel. Smash Up de AEG est repris par
Yellow.
Et on retrouve Space Cadet et Lord of Waterdeep.
Ouais, Space Cadet, il a sa place là-dedans. Après, il y a le meilleur jeu d'un nouvel auteur. Donc on retrouve
Lords of Waterdeep, Mage Wars, Space Cadet, Mason Mystics, Spartacus.
En fait, ils ont été redéclinés. Après, la meilleure réédition, donc il y a Descente, Seconde Édition, Merchant of Venus, Netrunner, qui va forcément l'avoir.
Il va voir l'un ou l'autre.
Je sais pas, je peux pas juger. J'attends la version française de Netrunner pour jouer et vous faire un retour sur ce que change la nouvelle version.
Ah alors voilà. La meilleure, comment dire le jeu qui a la meilleure. Pour lequel vous avez la meilleure qualité-prix.
Ouais.
Le meilleur qualité-prix. Donc il y a Descente, Mice and Mystics. On a Tolkien avec le calendrier. Avec la
roue, X-Wing, ou le retour X-Wing, sur le retour n'est absolument
non,
pas
non,
bon.
Non, c'est trop cher par rapport à ce que. Non, c'est pas possible.
Et Zombicide, c'est pareil. Hein, c'est pareil, les prix des boîtes est quand même assez élevé par rapport au matériel. Qui est de bonne facture. Mais...
Un autre prix, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails. Best Small Publisher Nominees.
Le Best Party Game. Et là, c'est Yaku.
Love Letter,
qui sont quand même deux jeux, quand on en avait parlé, qui sont quand même finalement sur un même concept un peu proche.
Mais pas du tout. Mais comment ? C'est pas party game, Love Letter. C'est un filler, mais c'est pas. Oh là là. Vegas, Plucking Pear, ça je connais pas.
Non.
Et Wheat and Wedges.
Et puis les meilleures extensions, Seven Wonders Cities,
Kings of Tokyo,
Alien Frontiers
Faction. Kings of Tokyo.
Ouais, c'est Power Up de King of Tokyo.
Alien Frontiers Faction.
Et le jeu le plus innovant, donc il y a Escape, le fameux jeu de Jay Queen Games. On cherche toujours l'innovation. Flowerfall. On ne connaît pas. Mage Wars, Space Cadets et Tolkien. Après, il y a les meilleurs graphismes. Et là, on retrouve quand même Seasons dans les nominés, quand même.
Libertalia.
Voilà, et Libertalia, ouais, c'est-à-dire, encore une fois, une French Touch quand même présente.
Legendary, Mice and Mystic et Smash Up. Vous aurez les liens sur le site pour aller voir les illustrations, parce que comme ça ne me dira rien. Le meilleur wargame.
Ouais, sachant que je ne sais pas si c'est du gros wargame.
Le meilleur thème.
Et le jeu avec le meilleur thème. Et là.
On retrouve CO2 et Robinson Crusoe.
On retrouve Robinson Crusoe et qui, à mon avis, a ses chances. Mais Mice and Mystics, a priori.
Et puis on retrouve Space. Donc des jeux qu'on ne connaît pas. Des jeux qui sont multiclassés. Donc innovants, pour les enfants, meilleur jeu de l'année.
Meilleur premier auteur, ma famille,
petit éditeur. Enfin, bon, bref. Mais alors, mettre le plus innovant, le jeu le plus innovant, Escape. Ouais, j'espère que ce n'est pas lui qui passera parce que sinon, on est mal barré. Bon, qu'est-ce que t'en dis ?
Bah, j'en dis que je connais aucun des jeux quasiment, c'est que des jeux pour le public américain. Je sais pas. Mice and Mystics, j'en ai entendu du bon, mais je l'ai pas joué. Mage Wars, c'est pareil. C'est quand même du, c'est du jeu taillé pour le public américain. Mais si vous aimez bien ce type de jeu, allez voir. Je pense que vous pourrez, comme d'hab, ce qu'on aime bien dans ces sélections, c'est que ça vous met en avant justement des jeux qu'on a peut-être oubliés. Je me faisais la réflexion avec la boîte de CO2 l'autre jour justement. Quand je cherchais quel jeu je suis allé pouvoir sortir ce week-end, voilà, CO2, on en a parlé pendant Essen et depuis, j'ai pas l'impression qu'on en parle tant que ça en France, en tout cas. Il n'a pas dû être signé chez un autre éditeur, chez un éditeur français. On n'a pas pu suffisamment le tester en profondeur à Essen, donc on n'a pas d'avis pour l'instant tranché sur ce jeu. Mais le fait qu'il soit nominé, ça va m'encourager à le remettre sur les prochains jeux à sortir.
Et puis, pour finir ce podcast, la partie actu des jeux de société, je te propose de parler un tout petit peu de jeux de rôle. Et je vais commencer. J'ai découvert un truc incroyable. J'ai découvert le blog de la cellule.
Le podcast ?
Ouais.
Incroyable. Tu veux dire, depuis le temps qu'il existe ?
Ben oui.
Il a même été mentionné par Dédé Schultz à plusieurs reprises, choses comme ça. D'accord.
Oui, mais après, c'est une prise de conscience.
Il est même mis en avant, je crois, par Apple dans l'application podcast autant que Proxy Jeux, quoi. Il fait partie des Happy Few de notre catégorie.
Très bien, très bien. Alors, le blog de la cellule, c'est du jeu de rôle indépendant. C'est un podcast qui est avec plusieurs objectifs. Alors, il y a des podcasts, des thèmes, des versions de podcasts qui vont vous présenter des jeux, des versions de podcasts qui vont réfléchir sur des concepts comme le suspense, comme des choses comme ça. Des podcasts sur des one-shots, donc ça peut être Breaking the Ice, dont on vous a parlé pour la boîte à eux. Et je me suis fait en fait complètement moubourré par le blog de la cellule. Ils ont fait une présentation de Dogs in the Vineyard en disant que c'était le jeu de rôle, c'était le jeu de rôle indépendant. Mais voilà. Et je l'ai acheté.
Incroyable. Que tu es faible.
Ouais, non, mais.
On dirait un pauvre teaser pour six jeux, quoi. Qui craque pour le moindre jeu mentionné.
Mais, je veux dire, le blog est. Enfin, le podcast est intéressant. Leur façon de vendre le jeu est super convaincante. Et surtout, le jeu de rôle lui-même a une. Il a un petit quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Oui, c'est qu'en anglais. Après, tu cherches, mais tu dis « Ah, mais c'est pas français !» Alors, il faut des gens comme la boîte à eux pour franciser des trucs. C'est pas français, et tu dis « Bah oui. » Alors, c'est dans la série d'Orty MJ, de voir le jeu de rôle autrement.
D'accord.
Et là, c'est de voir d'autres jeux que Cthulhu, Shadowrun, et puis de voir vraiment... j'allais dire le jeu de rôle narratif, le jeu de rôle à... comment ça s'appelle ? C'est pas responsabilité partagée, mais c'est autre chose. Enfin, vraiment très très intéressant pour qui veut découvrir le jeu de rôle, accessible tout en restant quand même assez riche pour prendre plaisir à entendre des choses dont tu comprends rien. moi, j'aime beaucoup, tu sais, quand j'entends des trucs, je me dis avec quoi il parle ? Ça a l'air super bien. Et voilà. Donc le blog de la cellule. Je vous le conseille. Et puis alors donc Dogs in the Vineyard, un petit plus, ils te l'envoient en PDF. Donc ils ont une bibliothèque PDF, ils te l'envoient. Ou alors tu peux l'acheter et ils te l'envoient en format papier. Et dans ce cas-là, tu peux aussi l'avoir en PDF.
Ah, ça c'est super. Bien. Parce qu'en fait, toi, tu l'as acheté en PDF.
Non, je l'ai acheté en version.
En vraie version, quoi.
Voilà.
Et il est en quoi ? C'est quoi ? C'est américain ?
C'est 160 pages en demi-format en anglais. Ouais. But I speak English fluently.
C'est Dogs of
In the Vineyard. Alors le concept, c'est un concept super sexy. C'est des mormons, enfin des jeunes mormons qui vont de village en village pour aller régler des conflits et aller juger des actes des gens qui sont dans le village. Et
les pentes, c'est tout.
Oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est, si tu veux, t'as la foi. C'est des gens qui sont plutôt des jeunes plein de bonnes idées et qui veulent faire le bien autour d'eux, qui vont être confrontés à des situations complètement inextricables. Je vole parce que pour nourrir ma famille, ou je tue parce que pour protéger ma famille. Et dans ce cas-là, tu fais quoi ? Et c'est à ce genre de situation.
Tu dis la famille complète.
C'est ça. C'est ce genre de situation que le joueur est confronté. Et en plus, a priori, il y a une mécanique avec des dés. Donc tu lances une pelletée de dés en fonction de tes caractéristiques, de tes traits. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le jeu pourrait très vite te faire basculer dans un western pan-pan, je bute tout le monde. Mais ça ne serait pas la solution. Et l'idée, c'est vraiment trouver la solution. C'est ça qui est intéressant. Tu me regardes d'un
non, je vois pas pourquoi c'est pas la solution. Je vois pas pourquoi c'est pas la solution.
Okay. Bon,
c'est,
bah, si tu veux finir avec dans un trou, voilà, c'est pas. On va peut-être jouer avec toi en fait. Bref, le blog de la cellule, on vous mettra la référence sur le site. Allez les écouter. Choisissez, parce qu'il y a des choses qui sont un peu obscures, difficiles à aborder. Quand il parle de vraiment de jeux indépendants, surtout que c'est des auteurs, donc bon, des fois c'est un peu hard, mais. Très très belle découverte pour moi, même si c'est pas de l'actu. Et puis un forum qui s'appelle Sun and Drift, sur lequel on peut voir des comptes rendus de partie, et ça c'est sympa aussi pour découvrir un jeu de rôle et pour aller voir savoir si ça va te plaire ou pas, savoir comment ça s'est passé. Ben, tu peux aller lire le compte rendu de partie, et ça te donne un petit peu le ton, ça te dit ce qu'on fait les uns les autres, et pour savoir si, pour préparer ton jeu de rôle à toi en disant bah, ouais, mais moi je sais pas comment faire. Je pense que c'est une bonne approche et puis une bonne idée pour apprendre, enfin, le découvrir et puis poser des questions éventuellement en disant ouais, mais t'as fait ça comme ça, qu'est-ce que je fais dans ces conditions-là, c'est sympa. Donc, on vous a parlé de la boîte à eux. Oui, c'est une narration partagée, c'est jeu de rôle, la narration partagée. Donc, les jeux narratifs, ces jeux anglo-saxons qui sont apportés, là, on est les pieds dedans et c'est vraiment bien.
Tu auras le temps de jouer quand?
Je sais pas.
D'accord. Parce que moi, c'est drôle, je me rends compte, moi, j'adore, j'aimerais bien me remettre vraiment dans le jeu de rôle, mais je me perçois que j'ai déjà du mal à faire tout le reste.
Mais je vais commencer une campagne de Cthulhu, donc je vais peut-être trouver un peu de temps pour faire un one-shot de Dogs in the Vineyard.
Pourquoi pas? T'avais Solipsity aussi. T'as...
Ouais, alors ça, c'est. Je parle à DD Chutes. Je m'adresse à DD Chutes. Maintenant, c'est toi qui l'as, Solipsity. Donc c'est à toi de faire le compte-rendu de partie et toc.
Trop facile.
Trop face. Bon, mais c'est pas de ça qu'on voulait parler.
Ouais, je peux. Ouais, parce que bon, on peut parler de jeux de rôle, mais à part la cellule, on peut parler d'un truc un peu plus.
Un peu plus quoi?
Comment on va dire? Non, c'est pas. C'est un peu plus général, mais non, en fait, ça reste, on reste sur de la niche. C'était pour rebondir, en fait, sur un sujet qu'on a parlé dans le 33A. C'était le jeu de rôle, le Cobra. C'est Olivier, il s'amuse avec le Google Docs.
Avec
voilà, il m'a torpillé mon Google Docs.
Oh, c'est bien.
Donc,
vous en avez déjà parlé.
Vous en avez parlé à l'époque. Ils en étaient encore, je crois, à chercher le financement, etc. Ils sortaient une série très limitée, un collecteur à 250 exemplaires.
Ouais.
Et il va enfin sortir.
Bah, Cobra, c'est un bonhomme. Hein.
Ouais. Ah ouais, mais c'est tout un univers quand même. C'est
un mec avec un gros flingue dans le bras. Incroyable.
Ça s'appelle, je sais plus comment son flingue.
On s'en fout.
Je connais pas mes classiques. Mon dieu. Bref, voilà, donc le jeu de rôle sort, c'est chez Pulp Fever. Vous, donc si vous l'aviez, si vous faites partie des heureux, comment on va dire,
possesseurs.
Des heureux, bah ils ne le possèdent pas encore, mais des heureux acheteurs.
Cuisiniers.
Ouais, je ne sais pas s'il avait été crowdfundé. Bref, voilà,
si vous avez la chance d'avoir
participé, vous aurez bientôt dans les mains l'exemplaire, et sinon bah, vous pourrez retourner voir, on mettra un peu de lien. Pour si vous voulez jouer dans un univers un peu l'univers de Cobra, ce sera bientôt possible. Le jeu, il va sortir à des prix corrects pour un jeu.
45€.
Ouais, il est même en préco à 41,80 chez Ludic Bazar.
Moi, j'ai acheté mon Dogs in the Vineyard beaucoup moins cher. Et il vient des Amériques.
Ouais.
Et c'est ça la conversion euro-dollar quand t'as une conversion normale, c'est bien.
Mais la version collector, elle était vendue dans les 150€, si je me trompe.
Oui, très cher.
Cobra. Donc voilà, à côté, c'est pour ça que je dis, on est revenu à des prix plus standards d'un jeu de rôle pour
ouais,
la version
mais,
générique.
Mais c'est toujours pareil, si tu fais une campagne, si pendant un an, deux ans, tous les 15 jours, tu ouvres ton bouquin, il peut t'avoir coûté 150€. Ça,
ah oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est le principe du jeu de rôle. Hein.
C'est ça.
C'est que les joueurs, ils n'achètent pas beaucoup de. On se posait la question tout à l'heure pour les éditeurs, comment ils faisaient. Enfin, tu sors avec des munchkins ou des machins, mais dans le jeu de rôle, en gros, il y a des joueurs, ils achètent le livre de base et après, c'est fini. Hein.
Ouais.
Pas besoin d'extension.
Ouais, ouais, mais bon. Tiens, c'est marrant parce que Cobra s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo.
Oui,
Yuchi, le personnage. Tarazawa.
Bien sûr. Et donc pour l'instant, il y a que le guide du maître. Enfin, pardon, il y a que le livre de base qui est sorti. C'est le guide du joueur. Il y a un guide du maître qui est prévu évidemment. Plein de campagnes, plein de nouveaux scénarios qui sont prévus ensuite.
Voilà. Donc un personnage à la Belmondo dans un univers à la Total Recall. Bah, c'est Cobra.
Plein de nanas à moitié à poil.
Ouais. Et un gros flingue. Quelle bande le pote. Et vous ne trouverez pas Dogs in the Vineyard chez ludicbazar.com, mais vous trouverez tellement d'autres choses. Ben, on vous a parlé de Terra Mystica.
Voilà, qui était à 58,30€, sans réduction.
Ouais, on vous parle ça, c'est du net, bien sûr. Enfin, du brut, bien sûr, vous avez la réduction. Et puis, on vous a parlé dans cet épisode des cartes pour
X-Wing, oui, des plateaux.
Oui, oui.
Des playmats.
Eh bien, on les trouve. On les trouve. Alors, tu les as tous les seulement ou pas?
Je les avais regardés, ouais, c'est une trentaine...
35€.
Ouais, sauf que depuis, ils sont passés en rupture, j'ai l'impression.
Mais ça, c'est pas grave.
Mais il va revenir.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ça représente... Il y en a un, c'est une nébuleuse, et l'autre, c'est une sorte de base spatiale. En fait, à la base, c'est pas fait forcément pour X-Wing, mais le format s'y prête très bien, donc du coup, ils l'ont estampillé comme ça.
Bah, c'est exactement ce que t'as fait toi, en fait.
Mais moi, je l'ai fait moi-même. Ouais.
C'est
exactement les deux. Bah oui, parce que les deux types de théâtre d'opération qu'on voit bien. Voilà. Et puis, on vous a parlé de Netrunner. Il sort bientôt en français. Il se peut.
Quand ça?
Il est prévu là, à mon avis, pour fin avril, début mai.
C'est vrai?
Bon, alors c'est du Edge. On peut s'attendre à ce que ce soit.
Oh, merde. Ouais. Merde, j'ai toujours pas joué au mien en anglais.
Et ben voilà. Et surtout, du coup, on peut s'attendre à une forte demande. Donc, il est conseillé de précommander.
Ouais.
Et il est possible de précommander chez Ludic Bazar à 33,60€.
Bon. Bah, d'un autre côté, c'est pas le jeu que je jouerais avec des enfants ou des gens qui. Enfin, faut vraiment quelqu'un qui.
En couple.
Qui s'y connaisse. Ouais.
Faut jouer en couple, ouais, c'est sûr. Hein, il y a une vraie phase de deck building, tout ça.
Ouais.
J'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à vous en parler dès sa sortie. J'attends qu'il soit sorti et que je l'ai un petit peu manipulé pour.
Et puis moi, je me forcerai à y jouer en fait.
Surtout, t'as pas acheté que la boîte de base en anglais, t'as acheté les extensions.
Bah ouais,
faut pas faire la moitié
de conneries, autant y aller à fond.
Autant y aller à fond, évidemment.
Voilà. Mais je pense que je me tiendrai au premier set, et puis voilà. Mais bon, voilà, c'est un tel monument que j'ai hâte d'y jouer. Donc, sur ludicbazar.com, vous pouvez le précommander. Et puis, Terra Mystica, et puis les sets pour X-Wing. On passe aux écrans?
Là, t'avais une transition.
Oui, j'ai une transition pour les écrans. On parlait de jeux de rôle il y a quelques secondes, et puis je voulais vous signaler que le jeu de rôle sur... Enfin, pas le jeu de rôle, les livres où vous êtes le héros, on en a déjà parlé il y a quelques temps, et l'éditeur Gamebook Adventures va sortir tout un tas de jeux dont vous êtes le héros, notamment un Ian Livingstone, Blood of the Zombies.
Ian Livingstone, il en a fait un paquet de.
Un Steve Jackson, House of Hell.
Alors, c'est pas le même Steve Jackson que celui dont on vous parlait en début de.
Oui, c'est celui qui écrivait.
C'est celui qui a les bouquins.
Voilà. Et pour vous faire une petite idée de ce que ça peut rendre, vous allez sur iTunes Store. Et puis sur iTunes Store, vous avez. Alors, je suis dedans, je sors Infinite Universe, qui est un jeu de rôle dont vous êtes. Je vais pas y arriver. Qui est un livre dont vous êtes le héros sur iOS ou pour iPhone et iPad. C'est très bien fait. On tourne les pages, on appuie sur les choix, on se crée une petite feuille de personnage au début et puis ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc je ne saurais vous conseiller d'aller.
En français ?
Oui, non, tout à fait en anglais.
En anglais, d'accord. Tu nous mettras le lien parce que qu'on puisse mettre sur la note ?
Oui. Tout à fait. Mais là, je l'ai vu ce soir, je crois. Donc, voilà. Donc après, on peut lancer des dés. Ce qui est rigolo, c'est qu'à la création du personnage, on a deux dés. On a une fois deux dés, une fois trois dés. Des dés qui roulent sur iPad, on en a déjà vu. Et là, en l'occurrence, quand on doit faire des actions de combat, on peut lancer des dés. Et puis, voilà, c'est chouette. C'est chouette. Donc, quand on a un truc au hasard à faire, tu lances les dés ou quand il y a des combats.
Tu peux pas dire j'ai lancé les dés à côté de l'iPhone.
Non, alors c'est toujours le même truc. Bah si.
Ah si.
Bah, si. Oh. Oh, je crois.
Ouh.
Je crois.
Et comment tu fais pour aller revenir deux pages, deux fois comment tu fais pour caler tes doigts dans le numéro, dans le magazine, enfin dans le.
Ah. Non, tu peux pas. Et là, je suis en train de voir. Non, tu peux pas tricher en fait. Parce qu'il te demande de faire de rouler les dés, t'as trois choix. Et si tu roules pas les dés, ben t'as pas les choix qui sont. T'as les choix qui sont grisés. Donc voilà. Bref, alors mon cher compagnon ici présent est en train de vous dire que ça perd de son charme. Moi je vous dis allez-y. C'est ce que j'ai trouvé de plus approchant dans le livre dont vous êtes les héros. C'est-à-dire, c'est vraiment une interface qui est vraiment très bien, qui permet juste de faire ce qu'on faisait, sauf de tricher, revenir en arrière.
Alors, actualité écran, ça va être super light, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. Tigre et Euphrate, ou Euphrate et Tigris, ou enfin, là, les noms, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, les deux fleuves. Vous les mettez en français, en anglais, comme vous voulez. Donc, Euphrate et Tigris.
Ça fait, ouais. ça fait pas de news, hein, ça fait longtemps qu'il est sur iOS. Hein.
Et ouais, mais il est sorti sur Android. Merci, wow. Codito.
Incroyable.
Et donc, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai qu'un téléphone en tout petit pour y jouer, c'est à mon avis, c'est pas super. Je pense, connaissant Codito, qui sont quand même un portage assez proche de la version iOS, ils ont juste dû s'adapter un petit peu par rapport à la plateforme Android. Donc, je vous renvoie au numéro 16 de Proxy Jeux, c'est vieux. On remonte un an en arrière à peu près. Peut-être même deux.
Ouais, un an et demi.
Ouais, facilement, voilà, un an et demi. Donc, dans le numéro 16, où je vous avais fait un petit test de la version iPad, iPhone. Si vous l'avez acheté sur Android, parce qu'il n'est pas vendu bien cher, hein, il est vendu quelque chose comme 3€, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires du site ce que vous en avez pensé pour les autres. Je fais confiance à Codito de toute façon, c'est leur premier portage de jeu sur Android. Ça va, à mon avis, on va voir débarquer les jeux de société sur Android finalement dans les prochains mois, un peu plus que ce qu'on a vu jusqu'ici, donc... C'est tant mieux. Profitez-en déjà de celui-là si vous avez un Android. C'est Tigre et Euphrate, c'est quand même un jeu de pose de tuiles.
On a parlé
un
de
peu d'enchère de Rainer Knizia. C'est un des meilleurs jeux de l'époque Knizia.
Ouais.
C'est un jeu où il a innové par ses nouvelles règles.
Les conflits externes, les conflits internes, c'est un tout petit peu difficile à prendre en main parce que c'est une logique qui est particulière.
Mais vous verrez, ce que j'avais dit, c'est que le tutoriel dans la version iOS était très bien fait et vous expliquez dès le tutoriel, on vous donne déjà les bons réflexes du jeu à avoir, qu'on ne vous donnera pas forcément si vous jouez sur une version plateau. Mmh. Et l'avantage, c'est que vous faites une partie rapidement et que les IA sont bien calibrées. Donc je fais confiance à Codito, mais n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous l'avez acheté. Côté iOS, il y a la version, il y a Eclipse. Alors l'Eclipse, c'est quand même gros jeu, hein. C'est du 4X, c'est quand même costaud, c'est plutôt à jouer avec des humains. Mais il arrive quand même sur iOS et il serait, on utilise le conditionnel, mais il serait sur le point d'être soumis à Apple pour validation, sans doute dans le courant de la semaine.
Mais moi je croyais que c'était fait.
Bah ça a dû être fait, ça a peut-être été fait, il a tout juste, enfin en tout cas c'est dans ces jours, s'il y avait quand même encore des bugs ces derniers temps, à corriger, mais... Les délais de publication de Proxy Jeux étant ce qu'ils sont,
c'est sorti.
Parce qu'il y a quand même tout à fait des chances pour qu'il soit sorti quand vous nous écouterez. Et on manquera pas de vous faire un retour dessus.
Alors ça
va être top de pouvoir jouer à Eclipse sur. Ouais. Si les IA sont bonnes, ça va être pas mal.
Maintenant je joue à Ascension. Alors ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais
online,
c'est cool. Si on peut jouer online à Eclipse, c'est cool.
C'est plus chaud à mon avis.
Bref, j'attends ça avec impatience.
Voilà, et après on vous mettra le lien d'une interview éventuellement des petits gars qui sont chez Playdeck. Donc Playdeck, moi j'aime beaucoup, c'est comme Codito, c'est un éditeur de solutions sur iOS. Pour l'instant ils font que du iOS, mais après ça a changé. Très intéressant, enfin, c'est vraiment un des meilleurs éditeurs. Ils ont fait notamment justement Ascension, dont on vous parle bientôt dans la phase B.
Bientôt.
Et donc l'interview est sur Pocket Tactics. On y apprend que Agricola est toujours en cours, mais que c'est pas encore tout fini. On y apprend aussi que Ascension, en fait, c'est eux qui ont la charge toujours pour l'instant, mais que ça s'arrêtera fin 2014. Ensuite, ça passera à un autre éditeur.
Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça, parce que l'éditeur d'Ascension n'a pas dû renouveler la licence. Je sais pas comment ça marche entre eux. On y apprend aussi des choses, d'autres choses, comme leur vision du marché qui pour eux est en train de se développer fortement en ce moment, et le fait qu'ils estiment que maintenant, quand on porte un jeu de plateau sur un jeu iPhone, iPad, enfin, je joue quand même une version, dans une version numérique, on ne vise plus tout à fait le même public. On commence à toucher un public un peu plus, on touche un peu plus du grand public, des gens qui ne sont pas forcément habitués à jouer. Et donc, du coup, l'éditeur se permet de suggérer qu'il faut modifier tel ou tel élément du jeu pour qu'il colle mieux à la version numérique. Donc, on va se retrouver. Enfin, l'idée, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'avec le temps, on va arriver à des jeux qui seront en version, entre la version numérique et la version plateau, qui différeront peut-être un petit peu sur certains aspects. Voilà. Bon, malheureusement, hein, je vous dis, c'est une interview intéressante à lire, mais c'est en anglais.
Oui, ça a l'air très, très intéressant.
Voilà, bon, il y a d'autres choses, mais globalement, les idées les plus intéressantes, c'est celle-là. Et c'est ce qui clôt la séquence écran.
Très bien, bah écoute, très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, on va vous dire au revoir. On va essayer de faire court cette fois. Oui. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que nous avons un Facebook, un Twitter, un site internet podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des mails, dites-nous ce que vous voulez, réagissez à ce qu'on vient de dire.
N'oubliez pas de nous noter sur iTunes.
Voilà.
De mettre des commentaires sur iTunes. On aimerait bien avoir 150 notes avant la fin de l'année, ce serait bien.
Ouais, ce serait pas mal. Et parlez de nous, faites-nous découvrir. Le plus important, c'est ça, c'est pas d'avoir son nom sur iTunes, c'est.
Ah ouais, voilà.
C'est que les gens nous écoutent.
Voilà, c'est de découvrir votre
projet. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent. Il y a des gens qui arrêtent de nous écouter, puis il y a des gens qui commencent à nous écouter, c'est tout. Donc, on vous dit à très bientôt. Et d'ici là,
jouez bien.
Et puis.
Déjà, non. Et puis.
Non.
Il y avait déjà eu une campagne Kickstarter ululée, on va voir pourquoi il y avait les deux en même temps, qui a eu lieu, je sais plus, il y a un an, un truc comme ça.
Oui.
Attends, je vais tricher, je vais retourner sur l'ancien pour vous dire directement la date.
Non mais je comprends ça.
C'est interlude de vous être offert par
Ludique Bazar.
Ah voilà, je vais gérer le reboot. Voilà, très bien. Ok, je l'ai. Alors, est-ce qu'il y a des dates là-dessus? Ouais, ok. Donc.
T'as peut-être pas à avoir ton nom. Tu n'as peut-être pas à avoir le nom. Tu n'as peut-être pas. On peut mentir mille fois.